direction d'Henri Scripi, à l'Université Sorbonne Nouvelle et au Centre de recherche sur les poétiques du XIXe siècle. Il a publié un article titré « La critique subjective de Baudelaire, fondement d'un jugement esthétique exemplaire » dans un volume scolaire jugé auteur par auteur de chez Battini aux éditions Ellipse 2025. Aujourd'hui, il présente une communication intitulée « L'involontaire entre pathologie et poétique dans les champs des Mâles d'Aurore » de Lautréamont. Cette communication porte sur la large place laissée dans les champs de Mâles d'Aurore à tout ce qui dépasse et transgresse la volonté, pour montrer que Lautréamont construit une zone grise propice à la prise de pouvoir de son être de papier. Et je laisse la place à Guillaume Picard qui expliquera beaucoup mieux que moi sa communication.
Merci beaucoup et merci bien sûr aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque de m'avoir donné la parole et merci à vous d'être présents et présentes pour m'écouter tôt un samedi matin. J'ai donc choisi effectivement de vous parler de l'involontaire dans les champs de Mâles d'Aurore de Lautréamont et j'aimerais commencer par une citation d'Antonin Artaud. Il ne peut écrire une lettre usuelle simple sans qu'on y sente cette trépidation épileptoïde du verbe qui, de quoi qu'il puisse s'agir, ne veut pas être utilisé sans frémir. Dans sa lettre sur Lautréamont, Artaud diagnostique chez Isidore Ducasse, alias Lautréamont, une incapacité psychopathologique à contrôler l'écriture. Dans cette citation, l'image du verbe épileptique, conjuguée à l'effacement de la main qui écrit derrière le verbe qui devient autonome, font de toute la production de l'œuvre de l'auteur des Champs de Mâles d'Aurore une œuvre incontrôlée. Artaud se situe par là, dans une tradition critique qui a dépossédé Lautréamont de la paternité consciente de son œuvre. Il est vrai en effet que le lien entre l'œuvre de Lautréamont et la perte ou l'absence des facultés volontaires de l'esprit a été formulé très anciennement. Par leur histoire éditoriale et par leur première réception, les Champs de Mâles d'Aurore ont été comme placés sous le signe de l'involontaire pour au moins trois raisons. L'œuvre d'abord a été découverte 15 ans après la mort de son auteur dans un stock d'invendus, passé d'un libraire bruxellois à un autre. C'est ainsi qu'un phénomène Mâles d'Aurore naît avant même qu'on puisse vraiment lire l'œuvre, cette œuvre qui est surgie comme une occurrence réelle du motif romanesque du manuscrit trouvé. Là s'est jouée une première étape du divorce entre l'œuvre et la volonté de leur auteur. Puis, sur la foi du portrait brossé par le libraire qui détient les feuillets, les membres de la jeune Belgique qui exhume les Champs de Mâles d'Aurore vont présenter Lautréamont comme un auteur fou. Le mythe de la folie de Lautréamont est ainsi le deuxième élément qui favorise le nimbe d'involontaire dont l'œuvre est peu à peu entourée. Une troisième étape est franchie au moment de ce qu'on peut appeler la confiscation surréaliste des Champs de Mâles d'Aurore, lorsque Aragon et Breton vont imposer les champs comme modèle de l'écriture automatique, en réinvestissant en réalité le mythe de la folie. Il n'y a qu'à voir comment Aragon, par exemple, se plaît à décrire leur séance de lecture à voix haute des Champs de Mâles d'Aurore au milieu des cris des fous dans l'hospice du Val-de-Grâce au milieu de la guerre. L'œuvre d'un fou, découverte malgré lui et portant les marques des forces préconscientes de l'esprit, voilà ce que seraient alors les Champs de Mâles d'Aurore, véritable manifeste de l'involontaire en poésie. Mais envisager l'involontaire uniquement dans une veine biographique ne permet pas d'épuiser la question de l'involontaire dans cette œuvre, qui joue avec une rare virtuosité des contradictions de la volonté, plus qu'elle n'en semble victime. Elle est une œuvre de l'involontaire et non une œuvre involontaire. C'est d'ailleurs une œuvre où s'exprime une volonté triomphante, implacable, avec le personnage de Mâles d'Aurore. On veut donc montrer ici que l'involontaire gagne à être compris comme une force intégrée au dispositif poétique des Champs de Mâles d'Aurore. Par là, Lautréamont retrouve le Baudelaire des petits poèmes en prose. Alors que les Fleurs du Mal sont dédiées à un Gautier qui est loué comme poète impeccable et magicien S-lettre française, magicien parfait S-lettre française, la lettre à Arsène Housset, qui sert de préface au recueil des poèmes en prose, s'achève sur un aveu d'échec. Je lis. Sitôt que j'eus commencé le travail, je m'aperçus que non seulement je restais bien loin de mon mystérieux et brillant modèle, mais encore que je faisais quelque chose, si cela peut s'appeler quelque chose, de singulièrement différent. Accident dont tout autre que moi s'enorgueillirait sans doute, mais qui ne peut qu'humilier profondément un esprit qui regarde comme le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire. On peut élaborer de là une définition stimulante de l'involontaire en poésie. Moins ce qui se fait contre la volonté, contrecarré et empêché, que ce qui apparaît lorsqu'une inertie poétique fait dévier les décrets volontaires ou les excède. Cette déclaration de Baudelaire met en avant une part d'incontrôlé dans la production poétique qui est aussi mise en scène. C'est cela que je me propose d'explorer dans les Champs de Mâles d'Aurore. Je laisserai de côté dans cette étude la lutte de Mâles d'Aurore contre l'involontaire, qui prend la forme de la loi naturelle, la loi humaine, la loi divine, et qui prend aussi plus particulièrement la forme du sommeil. Je reviendrai un peu sur ce point, puisque le sommeil est pour Mâles d'Aurore un moment scandaleux où l'homme renonce volontairement au contrôle sur son esprit et sur son corps. Je laisserai donc de côté cette lutte pour m'interroger plus particulièrement sur la façon dont l'auteur des chants de Maldoror met en scène une écriture intégrant des élans involontaires encadrés par la raison. Je m'intéresserai ensuite à la façon dont l'œuvre revendique de contrarier et de contrôler la volonté du lecteur, notamment à travers un certain usage du récit. Les chants de Maldoror ont la particularité de mettre constamment en scène leur propre écriture, avec les interventions d'un scripteur qui commente sa situation. Ces commentaires ont souvent un ton impérieux, où l'auteur se peint en démiurge qui impose sa volonté, cette volonté étant le seul vecteur de nécessité au sein de l'œuvre. Je cite quelques exemples qui ne sont pas sur ma diapositive. Ainsi, à la fin d'une strophe dans le premier chant, il dit tout simplement « Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de mon invocation ». À la fin du premier chant, il annonce « Ce premier chant finit ici ». Ou à la fin du deuxième chant, « Il est temps de serrer les freins à mon inspiration ». Il y a là l'expression d'une volonté absolue qui contrôle l'avancée de l'œuvre à sa guise. Mais les décrets volontaires de l'auteur ne gouvernent pas toujours l'écriture, qui semble parfois se doter, sinon d'une volonté propre, au moins d'une inertie incontrôlable. L'autre élément écrit ainsi, au milieu du chant 5, « Suivons en conséquence le courant qui nous entraîne ». Et ce courant semble l'obliver. Il écrit ainsi, « Je voudrais dérouler mes raisonnements et mes comparaisons lentement et avec beaucoup de magnificence, mais qui dispose de son temps ?» C'est ainsi qu'on a plusieurs moments où l'auteur semble n'être qu'un intermédiaire qui décrit l'avancée du texte au lieu de la diriger. Pour annoncer, par exemple, l'arrivée d'un cinquième personnage au début du cinquième chant, il se contente d'observer en se plaçant du côté du lecteur et l'interpelle. Il dit, « Mais silence, l'image flottante du cinquième idéal se dessine lentement, où ce cinquième personnage semble être parfaitement autonome. » Un passage clé permet d'envisager en quoi l'écriture des chants de Maldoror s'ouvre à une puissance plus forte que la volonté, c'est la strophe des étourneaux, qui ouvre le cinquième chant. Au début de ce chant, l'autre élément imagine que le lecteur lui adresse des reproches sur la composition de son livre qui n'a pas de progression claire. Pour y répondre, il développe une longue description du vol des étourneaux. Je vous cite un premier extrait. Les bandes d'étourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semble soumise à une tactique uniforme et régulière. C'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent, et leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà. En sorte que cette multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même point aimanté, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, forment une espèce de tourbillon fort agité, dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paraît avoir un mouvement général d'évolution sur elle-même. Cette description insiste sur une tension entre des forces contraires, centripètes et centrifuges, volontaires et involontaires, qui, malgré tout, loin d'arrêter la bande des oiseaux, permet leur avancée étrange qui mêle individus et groupes, instincts rectilignes et déviations imposées par les lois de la physique. Après avoir fait cette étrange description du vol des oiseaux, le trémon ajoute, en appelant son lecteur, « Toi de même, ne fais pas attention à la manière bizarre dont je chante chacune de ces strophes, mais sois persuadé que les accents fondamentaux de la poésie n'en conservent pas moins leur intrinsèque droit sur mon intelligence. » Le parallèle ainsi esquissé met en avant dans la composition des chants de Maldoror l'importance d'une force d'inertie qui dépasse la volonté et qui n'en est pas moins souhaitable du point de vue de l'avancée de l'œuvre. L'écriture poétique est assumée comme processus intégrant nécessairement une dose d'involontaire, voire deux doses d'involontaire, puisque les étourneaux sont pris entre leur instinct et les lois de la physique qui malgré tout permettent une avancée. L'intention consciente est ainsi débordée par un élan qui contribue à la trajectoire globale de l'œuvre. Notons que l'autre élément retrouve ainsi, sous une forme moderne, le mythe de l'inspiration, qui a anciennement établi un lien entre production de poésie et involontaire. En outre, ce passage des étourneaux est composé en réalité en large partie d'une citation que Lautréamont emprunte à une encyclopédie de sciences naturelles. Ce faisant, il feint de renoncer au contrôle de son texte et s'en extrait pour regarder comme un augure le vol de ses strophes en se plaçant du côté du lecteur. Ce dessaisissement, bien sûr, est volontaire et il est même finement intégré au dispositif poétique puisque tout cela est en réalité une apologétique adressée au lecteur où il défend sa propre œuvre. Mais par le collage de la citation, une voix parle sous la voix poétique, sans parler malgré elle. Lautréamont met ainsi en scène une perte de contrôle pour mieux revendiquer une forme de poéticité fondamentalement lyrique de sa prose. Les accents de la poésie gardent leur droit sur son intelligence. On trouve des traductions stylistiques frappantes de cette poétique affichée de l'involontaire. Lautréamont multiplie ainsi tout au long de son œuvre de très longues phrases, assez accidentées, où la syntaxe semble indémêlable jusqu'au dernier mot. Ces derniers mots sont ceux qui vont tout à coup sauver le sens et la grammaire, et instaure ainsi un jeu avec le lecteur, qui doit appliquer toute sa tension d'esprit pour bien comprendre. Je n'en cite qu'un exemple, plutôt court, pour les besoins évidemment de mon intervention, qui se situe dans la deuxième strophe du premier chant. Elle commence ainsi. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre pareil à un requin dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges émanations. Dans la première phrase, l'apostrophe, lecteur, le tour emphatique, c'est la haine que, ainsi que l'exclamative, mettent d'abord le lecteur sur la piste d'un style naturel, assez direct. Et l'interrogative qui suit rompt totalement ce premier effet de lecture en imposant une phrase contorsionnée qui ralentit soudainement le rythme de la strophe et intercale incive et image jusqu'à isoler le groupe final, les rouges émanations. À la première lecture, il me semble, il est presque impossible de comprendre quel est le rôle de ce groupe nominal, tant le verbe qui le gouverne est éloigné. Il s'agit en fait de reniflera que l'on trouve au tout début de la question. L'effet créé est celui d'une phrase qui déraille, où les groupes syntaxiques courts sont accumulés au hasard jusqu'à la limite du non-sens. Mais la condensation finale de la syntaxe oblige à corriger avec rigueur cette impression et à voir une forme de progression non linéaire là où on ne voyait d'abord qu'un tourbillon. L'inertie est bien affaire d'effet et de méthode de composition ici. Et non de méthode de composition. C'est un effet et non pas la façon dont il a écrit cette phrase. L'impression d'un lâcher-prise poétique est aussi ménagée dans cette phrase par la progression des images. Apparaît d'abord une métaphore de la baignade plutôt obscure, baignée dans d'innombrables voluptés. Puis on trouve une image assez contradictoire, celle des narines larges et maigres à la fois, et un gérondi, en te renversant de ventre, qui ne se comprend que très vaguement. Ces images prennent soudainement sens grâce à une simple incise, pareille à un requin. Cette incise, qui est syntaxiquement négligeable, est cruciale pour le sens, puisque c'est elle qui suggère la comparaison qui structure toute la phrase. Le lecteur, dans cette question, est assimilé à un requin qui renifle dans l'eau une goutte de sang. D'où les rouges émanations de la fin de la question, et d'où aussi les narines, qui sont larges et maigres, car elles sont à la fois plates et étirées comme les narines d'un requin. C'est par ce montage très fin, entre une syntaxe qui s'emballe et se condense au dernier moment, et une image diffuse dont les pièces ne s'assemblent que de façon suggestive, que l'impression d'une écriture qui échappe est créée. La poésie s'enrichit ainsi d'une forme de lâcher-prise, qui n'est pas du tout une écriture automatique comme ont pu le prétendre les surréalistes, puisqu'on a bien à chaque fois le retour d'une logique très serrée, que l'on peut démonter. On parlera plutôt, avec Jacques Durenmat, d'un tremblement continu entre abandon et autorité dans l'œuvre de Lautréamont. Mais entre l'abandon et l'autorité, le pôle volontaire semble rester le plus fort dans le cadre d'une écriture qui, on le voit, à toutes les échelles, ne renonce jamais au sens, à un retour à l'ordre. En revanche, s'il est un espace où l'involontaire est mis en jeu avec une ambiguïté insistante et dérangeante, c'est dans les sollicitations du lecteur. Dans la strophe 4-5, Maldoror en pharmacie, « Tu prêtes malgré toi l'oreille à mes discours, comme poussé par une force supérieure. » Le jeu poétique et stylistique que l'on vient de voir autour de l'involontaire servirait alors surtout à déstabiliser le lecteur qui parcourt le texte comme un terrain piégé. Et la vraie dose d'involontaire ne serait pas tant du côté d'un dispositif littéraire qui certes intègre quelque chose comme un élan incontrôlé, que dans l'effet que cet élan vise à produire sur le lecteur en le désorientant. L'involontaire devient alors le nom d'une volonté qui est manipulée et paralysée et qui ignore même qu'elle l'est. J'en passe donc ainsi à mon deuxième point. Si une force psychique involontaire qui s'approche de l'inconscient des psychanalystes est mise en jeu dans les chants, c'est par le biais d'un personnage, Maldoror, qui ressemble en tout point au diable décrit par Baudelaire dans son poème « Au lecteur » au début des Fleurs du Mal. Je n'en cite qu'un court extrait. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. L'involontaire est ici une aboulie satanique, une inhibition de l'activité intellectuelle et physique où l'on se rend à un grand marionnettiste. Un lent travail de sape de la volonté du lecteur est à l'œuvre dans les chants de Maldoror, et c'est ce que je voudrais montrer à présent. Dès la deuxième strophe du premier chant, la première strophe du deuxième chant, le lecteur est prié par la voix lyrique de s'en remettre à Maldoror et de ne lui opposer aucune résistance. Il dit ainsi « Ô être humain, te voilà maintenant nu comme un ver en présence de mon glaive de diamant. Abandonne ta méthode, il n'est plus temps de faire l'orgueilleux. Il y a quelqu'un, c'est Maldoror, qui observe les moindres mouvements de ta coupable vie. Tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée. Par conséquent, remets sans peur entre ses mains le soin de ton existence. Il la conduira d'une manière qu'il connaît. » L'entreprise de vaporisation de la volonté du lecteur au cours de l'œuvre est très complexe et elle est entamée dès la célèbre première strophe des Chants de Maldoror. L'auteur y fait savoir que son œuvre est piégée et conseille au lecteur de faire demi-tour. Je cite à nouveau. Plutôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Le pacte de lecture ainsi scellé est retors. Car en feignant d'être honnête sur sa perversité menaçante, l'auteur rend le lecteur responsable d'une désobéissance à laquelle il le contraint en réalité. Ce texte est par ailleurs hautement paradoxal, puisque tout en appelant le lecteur à la vigilance intellectuelle, il endort sa méfiance et le désoriente. La strophe, qui est plus longue que ce que je vous ai cité, se termine ainsi par une suite d'images qui sont de plus en plus développées jusqu'à former une vraie vignette narrative, le tout dans des phrases tourbillonnantes comme celles qu'on a pu déjà voir, qui entament le long travail d'hypnose et happent le lecteur dans la lecture. Ce dernier, en effet, ne peut pas s'arrêter au milieu de la phrase ou au milieu de la narration qui a été entamée. Parmi les modalités de cette hypnose, qui font de la lecture des chants de Maldoror une expérience, je cite, « d'inertie docile à son enlisement », pour prendre la formule de Maurice Blanchot, j'aimerais m'attarder particulièrement sur le rôle des manipulations du récit. La persona poétique des chants de Maldoror a conscience de l'ascendant qu'il prend sur son lecteur dès lors qu'il entame un récit, et il formule cette prise de pouvoir en termes d'affaiblissement de la volonté du lecteur. Mon dernier point. La strophe 4-6 fait allusion aux lecteurs qui veulent absolument avoir la suite du récit et ne peuvent supporter les digressions. Il compare ses lecteurs à des cachalots en rut. Il dit ainsi « Mais arrivons tout de suite au rêve, celui qu'il a promis, afin que les impatients, affamés de ces sortes de lectures, ne se mettent pas à rugir comme un banc de cachalots macrocéphales qui se battent entre eux pour une femelle enceinte. » Il y a donc une tendance instinctive du lecteur de narration à vouloir la fin, le narrateur en a conscience, et il revendique de contrarier cette tendance. Dès la deuxième strophe du chant 5, par exemple, où Maldoror interrompt tout à coup le récit d'une rencontre avec un scarabée géant et prend le lecteur à partie en lui disant « Qu'il te suffise de savoir que la plus douce punition que je puisse t'infliger est encore de te faire observer que ce mystère ne te sera révélé, il te sera révélé, que plus tard, à la fin de ta vie, et peut-être même à la fin de cette strophe. Un autre jour, je reprendrai la fin de cette histoire. Cependant, je continuerai ma narration avec un morne empressement. » Le narrateur se plaît ainsi à frustrer explicitement son lecteur. En entamant son récit, il a conscience de mettre son lecteur dans une position de dépendance pour connaître la fin, et il le lui fait savoir, comme un marionnettiste qui est en place, prêt à imposer sa volonté. C'est dans le petit roman du dernier chant que le rapport du lecteur au récit est le plus nettement mis en jeu dans une visée hypnotique. Au début du sixième chant, en effet, qui est le dernier de l'œuvre, l'auteur déclare qu'il va entamer un petit roman, forme dans laquelle il dit avoir trouvé l'aboutissement de son projet poétique. Il revendique dès le début de chercher à engourdir son lecteur. Je cite « Ce sentiment de remarquable stupéfaction auquel on doit généralement chercher à soustraire ceux qui passent leur temps à lire des livres ou des brochures, j'ai fait tous mes efforts pour le produire. » Il faut entendre ici stupéfaction au sens médical, de léthargie, presque de paralysie. Cet imaginaire médical est en effet confirmé plus loin. Lorsque, au cours du petit roman, la mère de Mervyn, qui est le héros de ce petit roman, évoque l'engourdissement que provoque en elle la lecture de récits historiques. Contre cet engourdissement, un remède est nécessaire. Elle dit « Je vais chercher dans mon appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine dont je me sers habituellement quand la migraine envahit mes tempes lorsque la lecture d'une narration émouvante jette ma pensée rêveuse dans les tourbières de l'assoupissement. » Notons en passant que le spleen, l'ennui, le dégoût de la vie, taedium vitae, ne concerne jamais Maldoror lui-même, qui n'est victime d'aucune maladie de la volonté, pour reprendre l'expression de Théodule Ribaud dont il a été question hier, qui a été à l'époque l'un des premiers Français à s'intéresser à la psychologie. C'est autour du lecteur de la narration que l'imaginaire pathologique de l'involontaire se concentre. On trouve dans le dernier chapitre du petit roman un lien clairement établi entre récit et paralysie pathologique de la volonté. Voici comment il débute, c'est la dernière citation sur ma diapositive. « Pour construire mécaniquement la cervelle d'un conte somnifère, il ne suffit pas de disséquer des bêtises et abrutir puissamment à doses renouvelées l'intelligence du lecteur, de manière à rendre ses facultés paralytiques pour le reste de sa vie par la loi infaillible de la fatigue. Il faut en outre, avec du bon fluide magnétique, le mettre ingénieusement dans l'impossibilité somnambulique de se mouvoir en le forçant à obscurcir ses yeux contre son naturel par la fixité des vôtres. Voilà que le comte est doté lui-même d'une cervelle. Cette cervelle est dirigée contre un lecteur qui est paralysé au sens propre puisqu'il ne peut pas lâcher le livre qu'il tient, il se tient immobile, et qu'il est ensuite hypnotisé contre son gré. Satan est ici magnétiseur plus que chimiste ou alchimiste, mais il reste cette puissance qui vaporise la volonté du lecteur en s'invitant sous son crâne. On peut tout à fait rapprocher ce passage de la strophe du sommeil, c'est une strophe plutôt dans le livre, où Maldoror dit qu'il refuse de dormir, puisque précisément c'est un moment où le créateur, qui est retors dans le champ de Maldoror, profite de l'absence consciente de sa créature pour s'inviter sous son cerveau. Il dit ainsi « Ma subjectivité et le créateur, c'est trop pour un cerveau. » Et il décrit le corps de l'homme endormi comme un corps qui n'est plus qu'un cadavre qui respire. L'humiliation physique du dormeur est exactement celle subie par le lecteur dans le petit roman. On voit bien donc que de même que Maldoror se rebelle contre la domination du créateur pour mieux imposer sa volonté aux autres, de même il refuse lui-même l'asservissement volontaire du sommeil pour mieux endormir son lecteur et prendre les contrôles de ses pensées et virtuellement de ses actions. Je n'ai pas le temps de développer cet exemple, mais on peut voir, par exemple, dans la strophe du vampire, dans le premier chant, un exemple où la narration dévie, après avoir été commencée à la troisième personne, elle passe à la deuxième personne, et c'est le lecteur qui devient l'acteur de l'agression que commet Maldoror sur un jeune enfant. La narration devient ainsi l'agent infectieux d'une maladie de la volonté qui soumet le lecteur. Cette idée d'une dangerosité paralysante du récit, que l'on retrouvera plus tard chez Valéry, est déjà présente à nouveau chez Baudelaire, qui écrit à Housset, en vantant la forme éclatée de son recueil, « Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture, car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superfine. » Je conclue ainsi sur l'idée que cet ouvrage est marqué par le sceau d'une démence plus ou moins volontaire, pour détourner un commentaire qu'avait fait à l'époque Maurice Maeterlinck sur le Trèmes. Les chants de Maldoror témoignent d'une instabilité frappante de la posture du scripteur, qui joue tout le temps d'une hésitation forcenée entre maîtrise totale et abandon absolu, l'un et l'autre étant toujours en partie fin, toujours en partie mensonger, et favorisant surtout une relation, on peut dire volens-nolens, avec le lecteur. La complexité de cette posture et de cette relation gagnerait à être analysée comme un moyen déployé par un auteur de la fin du XIXe siècle pour réactiver dans un texte en prose les caractéristiques les plus lyriques de la lecture, à savoir un effet de présence mystérieux derrière les mots et une possibilité d'interaction avec un texte en train de se faire, voire en train de se dire. L'involontaire pourrait alors être la stratégie d'un poète en prose pour affirmer le caractère poétique de son œuvre contre le confort des lectures narratives. Je vous remercie de m'avoir écouté.
La deuxième communication.
Parce que peut-être ordinateur aussi. Oui. Ouais, je viens de. Yes. Juste là, ouais, ici. Voilà, très bien. C'est très court. Cool. Je te rappelle. Où est-ce qu'on parle toujours de l'univers? Alors.
Alors, je vais vous présenter la revue. Alors, Coral Isidore est enseignante agrégée de lettres modernes. Elle prépare actuellement une thèse à la Sorbonne au sein du CELLF sur le genre du dialogue philosophique chez Fontenelle et Diderot sous la direction de Christophe Martin
et Nathalie Denisot.
Ses travaux portent principalement sur la relation entre littérature et philosophie, sur l'apprentissage et sur les liens entre théorie et pratique Elle a pour dessein aujourd'hui d'analyser des passages extravagants, il me semble, dans l'œuvre, une des œuvres les plus connues de Fontenelle, Les entretiens de la pluralité des mondes, et sa communication est titrée « Accident de pensée et hasard du monde, l'involontaire comme un outil critique dans les entretiens de la pluralité des mondes » de Fontenelle. Et je lui cède la parole avec plaisir.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je remercie d'abord les organisateurs et organisatrices pour cet événement. Je n'ai pas pu malheureusement assister à la journée hier, je travaillais, mais je suis ravie d'être là et surtout je suis ravie de passer après un autre Isidore, immense celui-là, mais quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, alors je vais donc, je vous propose aujourd'hui une communication sur Fontenelle qui s'intitule « Accident de pensée et hasard du monde, l'involontaire comme outil critique dans les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle ». Alors, les entretiens de Fontenelle sont publiés en 1686. L'histoire est relativement simple. Les entretiens présentent un philosophe et une marquise qui discutent pendant 6 soirs au clair de lune dans le parc d'un château et ils discutent des mouvements des astres et de leur habitation possible. Les personnages donc s'engagent dans un voyage par la pensée, un voyage cosmique qui leur permet d'aller de passer de planète en planète pour aller observer leurs spécificités. Le philosophe en pédagogue cherche à rendre intelligibles des réalités abstraites, des réalités complexes à la marquise, pour qu'elle soit en retour elle-même capable de concevoir des réalités qui la dépassent au départ en tout cas. Donc cet aller-retour entre dispense et appropriation d'un savoir est au cœur de l'acte pédagogique représenté dans les entretiens, et repose sur un usage productif des images et des analogies. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Pour Fontenelle, la raison n'exclut pas l'imagination. Au contraire, il montre qu'à force d'établir des parallèles entre des éléments d'un raisonnement, on en vient à des conclusions que seule l'imagination peut se représenter. Mais l'inverse est vrai aussi. L'imagination développe une forme de logique au sein de l'image choisie comme point de départ, et elle permet parfois au raisonnement logique de se relancer. Donc les deux se complètent et les deux personnages, donc maître à penser et disciple, prennent part à cette dynamique créative de la pensée à parts égales. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et chacun, à sa façon, fait déborder l'idée initiale ou l'image initiale. On trouve ainsi plusieurs passages dans lesquels les personnages se disent loués d'une force qui les dépasse et qui peuvent être liés à la notion d'involontaire. Cette force ne vient pas d'un dieu qui les transformerait en marionnettes, pas du tout, mais plus curieusement, cette force vient de leur propre pensée. Cette pensée les mène parfois plus loin qu'ils ne le souhaiteraient. Elle dépasse la volonté des personnages, et ce dépassement de la volonté prend forme à la fois, et c'est là l'originalité de Fontenelle, elle prend place à la fois dans la logique déductive, donc au sein des mathématiques pour Fontenelle, à force d'analogie, le raisonnement arrive à d'étonnantes conclusions, et puis également au sein de l'imagination qui, à force d'images, laisse émerger des idées que ni la marquise ni le philosophe ne semblaient vouloir tenir, qui a une sorte de mise en scène d'un involontaire de la pensée. Ces deux facultés, donc raison et imagination, ont chez Fontenelle le pouvoir donc de déplacer les personnages loin des voies intellectuelles qu'ils empruntent au départ. Dans les deux cas, la fin du raisonnement est présentée comme étant imprévisible, excessive. Et c'est en cela que nous pouvons rapprocher ces situations diégétiques de la notion d'involontaire. Les personnages apparaissent comme poussés malgré eux, l'expression « malgré soi-même » ou « malgré eux-mêmes » revient dans les entretiens. Ils sont poussés malgré eux sur des chemins qui ne mènent à première vue nulle part. Donc notre hypothèse pour cette communication, c'est que ces moments extravagants permettent à Fontenelle d'énoncer indirectement des principes de la science moderne qui sont proches du libertinage philosophique. Par exemple, l'absence de finalité dans la nature ou bien de causalité divine. C'est en cela que nous parlons ici, que nous parlerons ici de poétique de l'involontaire, non pas au sens de manifestation d'une pulsion ou d'un inconscient, mais au sens de représentation de ce qui construit et instruit la pensée, à savoir le caractère, son caractère imprévisible et excessif. Donc l'imprévisible, ce sera notre premier point, structure l'imagination. La marquise joue parfaitement son rôle de disciple, hein. Elle pose des questions, relance la réflexion du philosophe, construit avec lui le raisonnement, elle exprime des doutes, des incompréhensions. En tant que lecteur, on s'identifie facilement à la marquise. Elle est pourvue d'un rôle important. Diderot ne se trompe pas, hein, puisqu'il reprendra une des formules qui structure un petit peu ses réponses. Cette formule, elle est restée fameuse. C'est « pourquoi non ?» en fait, qui permet de relancer le raisonnement hein, sans cesse, relancer les images. Et cette formule sera reprise par Diderot dans le rêve de D'Alembert. Donc elle a un rôle très actif, cette marquise, dans la construction du savoir. Et pourtant, et c'est là où c'est intéressant, elle réalise parfois des écarts qui semblent a priori fantaisistes. On va tenter de donner un sens à ces écarts. Je prends un exemple, et ça sera celui qui nous occupera le plus aujourd'hui. Au cours de la troisième soirée, par exemple, la marquise entraîne le philosophe à comparer les habitants de la Lune à des apôtres. Donc évidemment, cette image est provocatrice, surtout à une époque où l'Église catholique est toute puissante. Ce qui est comique, presque comique, c'est que tout commence bien ce soir-là. Hein. Le philosophe explique à son élève que l'impossibilité de communication entre la Terre et la Lune réside moins dans le fait qu'il y a une distance très importante qui sépare les deux astres, mais puisque Fontenelle croit, il le dit hein, d'ailleurs, il imagine qu'un jour on pourra voler jusqu'à la Lune. Donc c'est moins cette distance-là que la différence de composition de l'air de la qui entoure la Lune et de l'air qui entoure la Terre. Et donc il emploie une image très simple et qui est justifiée d'un point de vue pédagogique. L'eau est l'air des poissons, je cite Fontenelle, ils ne passent jamais dans l'air des oiseaux, ni les oiseaux dans l'air des poissons. Et pourtant, le dialogue se poursuit ainsi. Je vous ai mis la citation. À ce compte, un habitant de la Lune qui serait arrivé aux confins de notre monde se noierait dès qu'il entrerait dans notre air, et nous le verrions tomber mort sur la terre. Oh, que j'aurais d'envie, s'écria la marquise, qu'il arrivât quelques grands naufrages qui répondit ici bon nombre de ces gens-là, dont nous irions considérer à notre aise les figures extraordinaires. Mais, répliquai-je, s'ils étaient assez habiles pour naviguer sur la surface extérieure de notre air, et que de là, par la curiosité de nous voir, ils nous pêchassent comme des poissons, cela vous plairait-il ? Pourquoi non ? Répondit-elle en riant. Pour moi, je me mettrais de mon propre mouvement dans leur filet, seulement pour avoir le plaisir de voir ceux qui m'auraient pêché. Alors, on voit la logique qui est assez labile. Au début du passage, la Terre est bien présentée comme une étendue d'eau, puisque les habitants de la Lune se noieraient. On en déduit donc que les Séléniens sont comparés plutôt à des oiseaux, ce qui invite ce que corrobore l'expression « nous le verrions tomber mort sur la Terre ». On imagine bien un oiseau hein, qui s'est jeté dans une vitre. On imagine presque une sorte d'Icare à la Chagall hein, qui tombe avec cette foule qui le regarderait tomber. Donc, le début reste relativement logique, mais la marquise vient relancer le raisonnement avec une nouvelle image à l'intérieur de celle-ci, l'image du naufrage. Donc, dès le début, la première analogie, donc l'explication des deux airs, déjà perd de son efficacité didactique avec cette nouvelle idée du naufrage. À partir du moment où elle parle de ce naufrage, le désir est présent, s'installe, dans ses paroles. On voit que l'hypothèse, la rêverie se teinte d'un désir et colore même la suite. Hein. L'atmosphère est devenue dans le texte une surface où il est possible de naviguer et si on imagine cette idée-là, la Terre serait comme une sorte d'Atlantide, une sorte de paysage convoité par les Séléniens. Donc la Terre devient elle-même objet d'un désir à la fin de ce développement. Le philosophe tente de reprendre la main. Il essaye de relancer le dialogue en proposant une hypothèse à la marquise. Et si c'était les habitants de la Lune qui nous observaient et non l'inverse? La réponse de celle-ci accepte cette nouvelle hypothèse au nom du principe du possible hein, et de ce fameux « pourquoi non ?». Et donc, elle réussit momentanément là à dévoyer son maître à penser en dépassant la voie de la théorie par celle de la curiosité. Donc l'image a déjà suivi un cours inattendu en glissant sur le thème du naufrage. Mais ce sont les derniers mots de la marquise qui permettent ici de travailler l'idée d'involontaire. « Je me mettrai de mon propre mouvement dans leur filet. seulement pour avoir le plaisir de voir ceux qui m'auraient péché. Ici, les mots filet et qui m'aurait péché, qui sont liés à d'autres précédemment énoncés par le philosophe, qui nous péchassent comme des poissons, convoquent un imaginaire biblique, surtout pour un lecteur ou une lectrice de l'époque. Ils font écho aux épisodes de la pêche miraculeuse dans la Bible. Alors, je le rappelle brièvement, Simon, pêcheur désespéré par l'absence de poissons, Jésus promet à Simon, qui est désespéré par l'absence de poissons, que s'il relance ses filets, il aura une récolte abondante. Simon les relance, effectivement, il remonte des filets prêts à rompre, et effrayé par ce miracle, il se prosterne devant Jésus, qu'il rassure en lui disant « Ne craignez rien, votre emploi sera désormais de prendre des hommes ». Cette image de pêcheur d'hommes revient dans les évangiles, chez Luc, chez Matthieu, chez Marc, et ici, elle désigne des apôtres, et notamment leur mission de conversion de nouveaux fidèles. Donc, en transformant momentanément les habitants de la Lune en pêcheurs d'hommes, de façon indirecte, la marquise fait une comparaison à la fois irrévérencieuse et comique. La maigre défense de Fontenelle, dans la préface, vis-à-vis de possibles accusations d'impiété, qui ont été nombreuses, consiste à affirmer, à propos des habitants de la Lune, qu'il ne les a point vus. Or, toute l'ironie consiste justement à faire porter la charge antireligieuse à la marquise, par la marquise. Car elle, non seulement elle a vu, elle s'autorise à voir, mais en plus, sa fantaisie l'entraîne à faire de ces êtres des figures religieuses. D'autant que le philosophe n'est pas en reste, puisqu'en réalité, qui emploie le premier l'image du pêcheur d'homme, c'est le philosophe. Et donc, il y a ici, de la part, c'est mon hypothèse, de la part de Fontenelle, il jette ici, disons, il y a un trouble qui est jeté par Fontenelle et qui nous invite à nous demander si le raisonnement que propose le philosophe ne serait pas teinté finalement d'une forme de vision non religieuse, voilà, qui se distillerait au sein des entretiens. Donc il y a ici un propos que la marquise fait tenir finalement au philosophe que lui volontairement ne voulait pas tenir. Donc Il y a un travail ici sur le fait de passer par des voies indirectes, excessives, qui sont présentées comme fantaisistes pour exprimer une idée qui n'aurait pas pu être publiée autrement. On note d'ailleurs que le mot « Dieu » n'apparaît quasiment pas dans les entretiens, seulement dans des expressions figées. « Mon Dieu, plus t'as Dieu que Dieu seul sait ». Et puis dans une anecdote étonnante, teintée d'humour, là, elle aussi, où le philosophe raconte comment le roi de Castille, un grand mathématicien, bien embarrassé par une représentation du monde qu'il juge obscure, regrette que, je cite, « Dieu ne l'eût appelé à son conseil quand il fit le monde, car il lui eût donné de bons avis. » Et le philosophe s'empresse d'ajouter « La pensée est trop libertine, mais cela même est assez plaisant que ce système fût alors une occasion de pécher parce qu'il était trop confus. » Donc on voit bien ici que la représentation du monde qui affleure dans les entretiens ne laisse effectivement assez peu de place, que peu de place à la providence. Ce constat a amené la critique à montrer l'importance de l'influence de l'épicurisme dans les entretiens. Une philosophie qui, justement, a à voir avec l'involontaire qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi ? Cette philosophie pose, en effet, comme principe de toute chose, l'expression d'un hasard, le clinamen, consistant en une infime déviation d'un atome qui le pousse à s'unir à d'autres et ainsi à constituer de la matière. Et on se rend compte, en lisant les entretiens, que ce vocabulaire teinté d'épicurisme se retrouve dans les explications du philosophe, même quand il n'est pas question, à proprement parler, de représentation épicurienne du monde. Par exemple, quand il expose le système épicurien copernicien à la marquise, il formule ainsi son idée. Si les planètes nous éclairent, je cite, c'est en quelque sorte par hasard et parce qu'elles nous rencontrent en leur chemin. Plus loin, quand il parle de la contemplation des étoiles, il dit qu'elles sont, je cite, semées confusément et disposées au hasard en mille figures différentes. La Bruyère ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il va tourner en dérision la question du hasard, les libertins et puis justement cette question du hasard et en peignant Fontenelle dans un autre chapitre comme une sorte de cuistre vaniteux vide. Voilà. Donc, les entretiens exposent ici et là des éléments d'épicurisme discret, selon la formule de Christophe Martin, et qui sont cachés dans les fantaisies, dans les moments d'excès, de débordement des images qui sont pris en charge par la marquise. Mais ce n'est pas tout, et ce sera mon deuxième point. Ce débordement, ce caractère imprévisible de la pensée, se retrouve peut-être là où on l'attendrait le moins, c'est-à-dire au sein de la raison, au sein du raisonnement mathématique. Donc, il existe dans les entretiens une sorte de logique inéluctable de la raison. C'est le philosophe qui, dans une comparaison fameuse, lors du cinquième et dernier soir, dans la première édition des entretiens, il n'y avait que cinq soirs, le sixième soir a été rajouté ensuite, il exprime clairement cette part d'imprévisible. Alors, je vous... Écoutez, madame, répondis-je, puisque nous sommes en humeur de mêler toujours des folies de galanteries à nos discours les plus sérieux, les raisonnements de mathématiques sont faits comme l'amour. Vous ne sauriez accorder si peu de choses à un amant que, bientôt après, il ne faille lui en accorder davantage. Et à la fin, cela va loin. De même, accordez à un mathématicien le moindre principe, il va vous en tirer une conséquence qu'il faudra que vous lui accordiez aussi, et de cette conséquence encore une autre, et malgré vous-même, il vous mène si loin qu'à peine le pouvez-vous croire. Ces deux sortes de gens-là prennent toujours plus qu'on ne leur donne. Donc, ce passage amusant dévoile plusieurs présupposés de Fontenelle sur le fonctionnement de la pensée. Premièrement, on trouve l'idée que la logique des mathématiques crée un ordre déterminé, implacable, dans l'exposition des idées, qu'elles soient rationnelles ou farfelues. Ce propos fait écho de manière plaisante à la démonstration qui est au cœur des entretiens, puisqu'il est censé démontrer la pluralité des mondes. Au premier soir, il se met en tête de prouver à la marquise qu'il va lui démontrer cette idée. Les quatre autres soirs représentent donc le cheminement que l'esprit disciple doit parcourir pour parvenir par lui-même à cette issue. Et ça marche, puisqu'au cinquième soir, la marquise s'étonne d'arriver par sa propre réflexion à cette conclusion. Fontenelle donc s'amuse ici, dans le corps du texte, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais à exposer la puissance de la mécanique rationnelle. Lecteurs, lectrices des disciples ont bien été menés, sans qu'ils s'en rendent compte, effectivement, à la démonstration du postulat étonnant de départ, à savoir qu'il existe une pluralité des mondes, semblable au nôtre. Le deuxième présupposé qui est contenu dans cette comparaison, c'est que, par la comparaison de l'amour et des mathématiques, Fontenelle veut affirmer une sorte d'équivalence, un principe d'analogie entre fonctionnement scientifique et moral. Marie-Françoise Morturo lit ce passage comme l'expression d'une force inéluctable qu'auraient en commun une démonstration logique et une entreprise de séduction, conforme aux usages mondains. Pour elle, il existerait dans le texte une mise en rapport des problématiques scientifiques et morales lorsque le philosophe affirme qu'une parfaite maîtrise des codes de la séduction la rendrait aussi implacable qu'un théorème de Pythagore. Pourtant, il y existe une autre lecture à laquelle je souscris. Christophe Martin propose donc justement de lire autrement cette comparaison, puisqu'il insiste, il attire l'attention sur le fait que ce n'est pas l'amour qui est comparé aux mathématiques, mais l'inverse. Or, en comparant les mathématiques à l'amour, c'est la démonstration, je cite, c'est la démonstration intellectuelle qui se trouve investie d'une énergie proprement sexuelle. Le plaisir naîtrait alors moins du contenu de la pensée que de son processus déductif, lorsqu'elle, je cite, permet une capture du désir de l'autre, une authentique séduction conduisant la marquise à éprouver un véritable transport et à faire l'expérience de quelque chose qu'elle n'a pas même imaginé. Fontenelle ne le dit pas autrement, hein, puisque à la fin on peut lire « Malgré vous-même, le mathématicien vous mène si loin qu'à peine le pouvez-vous. » Comme l'amour, la raison désarme parfois elle aussi la volonté ou la certitude des êtres. Voilà justement le troisième présupposé qui est mis au jour par la comparaison entre mathématiques et amour. Si raison et imagination ne s'opposent pas chez Fontenelle, c'est qu'ils partagent une capacité à transporter celui ou celle qui s'y adonne. Et le plaisir du savoir, au cœur des entretiens, repose sur cette possibilité d'être embarqué, malgré soi-même, dans une forme de folie. Le mot revient 4 fois dès le premier soir. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Il s'agit, Fontenelle le dit ainsi, d'une imagination qui s'est échappée. Une idée qui s'appuie sur le principe du possible plutôt que sur celui du vrai. L'expression du « pourquoi non » de la marquise entre parfaitement dans cette définition. La pensée ainsi considérée appelle un détachement, une acceptation du trouble qu'elle crée dans les certitudes. Comme le dit le philosophe à son ami, vous êtes engagé trop avant pour pouvoir reculer, il faut franchir le pas de bonne grâce. On entend ici Pascal dans les pensées, hein, qui dit « ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué ». Évidemment, il n'y a pas le même tragique placé sur cet involontaire, puisque ici, chez Fontenelle, l'involontaire, provoqué par les deux facultés de la pensée, imagination et raison, est ainsi recherché pour le plaisir. Derrière cet apparent et sans doute véritable éloge de la fantaisie, Fontenelle profite de ces moments extravagants pour disséminer des idées proches du libertinage de pensée, qui auraient peiné à être publiées autrement. Donc ces personnages sont une sorte d'écran. Il s'agit de faire accepter des idées fantasques, farfelues, que Fontenelle ne peut pas tenir directement dans son livre. Si Fontenelle a montré la logique déductive et analogique sous la forme d'une douce folie, la marquise s'écrit souvent « je m'y perds », c'est pour soutenir indirectement une thèse difficilement acceptable pour l'époque. C'est donc toute la logique de l'œuvre, toute la logique des entretiens, qui montre des personnages dépassés par leur propre raisonnement et poussés involontairement sur des voies intellectuelles lointaines qui est au service de la démonstration d'une idée de proche du libertinage. Ici, la lecture, l'invitation d'une lecture à double sens est même présente hein, directement dans le texte. À plusieurs moments, j'en citerai qu'un, mais lors de l'ajout du 6e soir, Fontenelle écrit, dit à travers le philosophe, « Contentons-nous d'être une petite troupe choisie qui les croyons et ne divulguons pas nos mystères dans le peuple. » Donc, cette idée d'un secret de l'œuvre, d'idées qu'il faudrait cacher hein, derrière des écrans, des personnages écrans, ou bien une sorte de fantaisie, elle est très présente et elle est écrite directement dans l'œuvre. En conclusion, je dirais que ces accidents de pensée provoqués par le caractère excessif et imprévisible de la pensée apparaissent comme la manifestation d'une poétique de l'involontaire. Ils construisent et informent une représentation du monde qui ne peut se dire qu'à demi-mot. Et c'est par la fiction que les entretiens expriment le plus directement la philosophie. Par exemple, je terminerai là-dessus, lorsque le philosophe veut faire comprendre que selon Descartes, l'univers est un ensemble homogène et constant dans ses lois, il invite la marquise à passer par la pensée d'une planète à une autre sans qu'on rencontre de problème d'échelle. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le principe physique d'homogénéité et de constance des lois est exprimé directement dans la fiction, par la fiction, en créant un espace-temps diégétique qui l'illustre. Il y a la même chose avec l'épicurisme. C'est pour exprimer une philosophie qui recueille les hasards du monde que Fontenelle place ses idées dans des moments imprévus, des accidents de pensée, que ni les personnages ni les lecteurs-lectrices ne voient venir. Il existe ainsi chez Fontenelle une valorisation de l'involontaire en ce qu'il augmente, en ce qu'il agrandit les limites du monde de qui observe ou qui pense. Les erreurs de la pensée n'effraient pas du tout Fontenelle, au contraire. C'est aussi une manière de poursuivre un mouvement d'émancipation de la philosophie vis-à-vis de la théologie hein, qui s'est engagé depuis la Renaissance. Les entretiens ne montrent pas pour autant la recherche encore d'un inconnu ou d'un nouveau, mais il constitue plutôt une invitation à se laisser aller au plaisir de l'exercice de la pensée et à en goûter toute la puissance au prix de quelques détours. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette communication qui était passionnante et extrêmement claire.
Merci.
Alors, maintenant, nous allons avoir un petit moment d'échange de questions-réponses. Alors, après la pause, après les autres communications, donc c'est la pause et on reprend après.
Merci. C'est peut-être mieux si les gens qui parlent après nous vont voir leur enregistrement et sinon, je n'ai pas fait, mais comme ça, pour que je n'ai pas fait. C'est un panneau assez grand, parce qu'il y en a quatre. Donc, du coup, c'est comme ça. Je n'étais pas suivi. Non, comme c'est un panneau qui est grand.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai cru qu'en fait.
Oui, c'était un peu ambigu. En plus, en fait, on a fait exprès à ne pas écrire les choses de manière très claire sur le programme pour pouvoir absorber les retards s'il y en avait. Là, on est à l'avance, en fait.
Mon s'est connecté, je pense qu'elle part. Je l'ai fait connecter tout à l'heure.
Alors, merci à tous d'être revenus après cette courte pause. Maintenant, nous accueillons Zoé Chaubert, qui est étudiant en maîtrise, c'est-à-dire en première année de master de philosophie à l'ENS-PSL, parcours philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences. Il est titulaire d'un bachelier de philosophie en filière sciences exactes de l'Université de Namur. Et les questionnements sur la médiation des sciences ou la relation qu'entretiennent narration et savoir occupent une place centrale dans ses travaux. Les plus importants de ses travaux sont les suivants. Savoir, narration et imaginaire chez Folf et Jerabelt. Vulgarisation et sciences populaires des manières d'ouvrir la science. Et ces deux travaux ont été rédigés sous la direction d'Olivier Sartenaer, ils explorent les liens entre mythologie, savoir scientifique et vernaculaire, procédés narratifs dans les œuvres de Paul Feyerabend et Nelson Goodman. Son étude d'aujourd'hui porte sur la place de la volontaire dans le récit scientifique sous l'expression de la sérendipité.
C'est ça.
La sérendipité comme outil narratif pour les sciences ouvertes. Et je lui cède la parole.
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil et merci aux organisateurs de la journée aujourd'hui, enfin des deux journées d'études. Comme il a été dit, ma présentation s'appelle « La sérendipité comme outil narratif des sciences ouvertes » et je pense que ça fait une bonne transition après la présentation de Madame Isidore qu'on a écoutée juste avant, nous expliquer comment ça va être la raison qui emporte l'imagination. Maintenant, on va voir comment, en fait, l'inverse peut se produire aussi, et l'imagination va porter la raison au sein de quelques raisonnements. Donc ici, la sérendipité comme outil narratif des sources ouvertes, c'est un grand titre, un titre un peu plus vulgarisé que j'aurais pu produire, et pour vous donner un exemple de sérendipité, ça aurait été « Éloge de la confiture ». Pourquoi « Éloge de la confiture » ? En fait, faut savoir que cette présentation est le fruit d'une rencontre sérendipienne avec Jean-Marc Lévy-Leblanc, donc historien des sciences et physicien, avec qui il avait échangé sur l'importance des petits récits en sciences, donc souvent des anecdotes comme la pomme de Newton qu'on verra tout à l'heure. Et il m'avait expliqué en fait que accorder trop de place à ces petits récits dans l'éducation des sciences, en fait c'est presque mettre plus de confiture pour faire passer la pilule, notamment mathématiques, auprès des étudiants. Donc ça m'avait un peu surpris parce que on a là un vulgarisateur qui nous dit qu'en fait faut pas faire trop de récits des sciences. Donc éloge de la confiture. La sérendipité comme outil narratif des sciences ouvertes. On va voir tout de suite pourquoi. Donc ici, je vous montre quelques exemples de découvertes sérendipiennes. Donc la sérendipité, pour être dans une définition naïve, qui va nous être utile au sein de la présentation, c'est la découverte par hasard. C'est la découverte de ce qui n'était pas recherché. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, il semblerait que la plupart des découvertes scientifiques, ou une grande partie, dépendent de sérendipité. C'est-à-dire que, par exemple, la poussée d'Archimède, donc dans le petit récit de science qui explique que Archimède devait évaluer la teneur en or d'une couronne d'un roi grec, buté sur cette question, et en allant se baigner, fait déborder son bain, et alors détermine la formulation de la poussée d'Archimède, et donc permet de juger de la composition de cette couronne en la plongeant simplement dans une bassine d'eau. Un autre exemple de sérendipité, c'est la loi de la gravitation de Newton, donc la fameuse pomme qui serait tombée et qui l'aurait inspiré à formuler ces diverses équations dans les Principia. Et d'autres exemples un peu moins connus, que sont la nature électrique en fait du signal nerveux par Galvani, donc ça c'est au XVIIIe siècle. On découvre que le corps humain, en l'occurrence c'est des cuisses de grenouilles, sont capables de conduire l'électricité. Alors se pose toute la question de jusque-là l'électricité était dans les piles, et tout d'un coup on le trouve aussi dans le corps humain, est-ce qu'on se fait des piles sur pattes? C'est un peu l'hypothèse de Galvani qui va être réfutée plus tard. Mais là aussi, c'est une découverte faite par hasard. En fait, c'est lorsqu'un étudiant de Galvani va passer son scalpel dans une cuisse de grenouille, en contact avec la plaque de cuivre en dessous, il va y avoir une contraction musculaire, comme ce qui se passe quand les signaux nerveux impliquent une contraction musculaire dans nos muscles quand on se déplace. Et donc, c'est ça qui va faire qui va lui faire découvrir la nature électrique de nos signaux nerveux. Et enfin, la pénicilline, donc ça a eu beaucoup de retentissement, on va en parler plus tard, au XXe siècle. Donc c'est la découverte par Alexander Fleming du fait que un type de moisissure, la pénicilline, est en fait un antibactérien très efficace parce qu'il avait posé un morceau de pain rassis et moisi près d'une plaque de pétri, et en fait il s'avère que la plaque de pétri a été les bactéries à l'intérieur ont été annihilées par la moisissure. Et donc, aujourd'hui, on arrive à la synthétiser pour en faire un antibactérien. Seulement, il y a un petit souci dans ces histoires de science, c'est que, par exemple, l'anecdote de la baignoire d'Archimède, en fait, elle n'est pas avérée. Elle est même apocryphe, parce que les principales sources qu'on a sur Archimède, Proclus et Vitruve, n'évoquent jamais cette anecdote. En l'occurrence, le seul qui parle de quelque chose à peu près proche, c'est Vitruve. En fait, il nous explique que Archimède aurait procédé tout de suite par le placement de diverses pièces de métaux dans une bassine, sans jamais passer par l'étape du bain. Et donc, Eureka, en fait, ça n'aurait jamais existé. Une autre anecdote, mais ça plus connue peut-être, qui est réfutée, c'est celle de la pomme de Newton. En fait, les biographes de Newton nous expliquent que la seule mention d'une pomme dans les écrits de Newton arrive en 1726, soit 40 ans après la première publication des Principia. Et il fait aucune mention d'une pomme qui lui aurait donné l'intuition de la gravitation. Donc, c'est quelques mythes de science qui sont réfutés ici. D'ailleurs, je vous donne ici la référence Ortoli-Witkowski, qui c'est un petit ouvrage très agréable à lire sur les différentes mythologies des sciences et qui analyse comment en fait ça nous fonde une culture générale des sciences en société, qui souvent est basée sur des informations fausses, mais qui nous renseigne aussi un peu sur la nature de la recherche scientifique et sur l'histoire des sciences telle qu'on la connaît. C'est d'ailleurs un peu le point aussi de cette présentation sur la sérendipité. Donc ici, il y a deux points à tirer de ça. C'est que, d'abord, la sérendipité qui semblait omniprésente a une place qui est d'un coup relativisée, parce que une bonne partie des anecdotes, en fait, est apocryphe. Et en même temps, on se pose la question de comment comprendre cette prolifération d'anecdotes fausses au sein de l'histoire des sciences. Donc d'abord, on pourrait arguer une forme d'efficacité de l'épisode marquant, de l'anecdote dans la culture scientifique, parce que, par exemple, il est plus simple de se souvenir de l'anecdote de la pomme de Newton que de réciter ou d'annoncer ses lois d'équation de mouvement et ce genre de choses. C'est ici l'argument dans la citation qui vient justement d'Ortoli-Witkowski, même ceux qui avouent ne rien comprendre en science savent pour la pomme de Newton ou pour la baignoire d'Archimède. Un autre argument, qui est un peu plus ancien, qui nous vient de Michel Serres, donc en 1975, nous explique qu'une innovation scientifique, lorsqu'elle échappe au sens commun, a besoin de beaucoup de médiation, beaucoup de vulgarisation pour avoir un retentissement. Mais lorsqu'elle emprunte des voies du mythe,
L'exemple que lui utilise, c'est Lucrèce qui, dans son poème De Rerum Natura, nous explique la nature hasardeuse de la physique épicurienne, du coup. En fait, prévoit un peu la mécanique statistique. Donc là, c'est Serre qui va tirer un peu chez Lucrèce des cordes pour retrouver de la physique moderne dedans. Mais on voit déjà comment les voies du mythe, les voies du récit ont une forme d'utilité à la diffusion des savoirs scientifiques. Du coup, on pourrait se poser la question de quelles sont les origines de cette importance du récit dans les sciences. Et une première origine, ce serait de dire, si on cherche une date, on a vu tout à l'heure qu'en moins 200 avant JC, on avait déjà des formes de récits scientifiques avec la baignoire d'Archimède. Donc en fait, on pourrait se dire depuis toujours. Depuis toujours, l'être humain se raconte des histoires et les sciences ne font pas objection à ça. Par exemple, les premières découvertes mathématiques chez Thalès, ça repose sur aussi ce processus d'anecdotes, d'histoires racontées. Les fragments d'ailleurs des présocratiques sont remplis de formes d'anecdotes, souvent aussi pour critiquer un peu les penseurs passés. Par exemple, Aristote est très friand de ce mode d'argumentation, on va dire. Mais ensuite, c'est un phénomène qui s'est systématisé lors de la modernité, et il y a trois aspects qui sont les causes principales de cette systématisation, de cette uniformisation, on va dire, de l'anecdote scientifique. D'abord, il y a un aspect qui est purement logistique, et donc là, c'est une étude principalement portée par Handler, donc en 2010, qui écrit un livre « Too Much to Know », qui explique comment, en fait, dans le passage du Moyen-Âge à la modernité, les savoirs deviennent tellement volumineux qu'il devient compliqué de les stocker en bibliothèque, de les transporter, etc. Donc là, il y a une forme d'argumentaire qui est de soutenir qu'une anecdote, par exemple, enfin, du coup, pas la pomme de Newton, mais on va dire des formes de poésie alchimique qui tiennent sur une page sont plus faciles à transporter logistiquement, plus faciles à conserver qu'une démonstration de plusieurs ouvrages sur la question. Donc ça, c'est pour l'aspect logistique. Ensuite, il y a cette question de la nature exceptionnelle des savoirs qui sont créés à la modernité. Donc avec l'essor de l'astronomie en tant que science, on commence à réfuter la conception aristotélicienne du cosmos. Et alors on entre totalement en contradiction avec le status quo, notamment celui poussé par l'Église à cette époque-là. Et il est nécessaire de recourir à des voies un peu mythiques, des voies qui reposent sur le récit. C'est par exemple le cas de Kepler, donc l'astronome qui va le premier produire quelques lois sur qui va essayer de systématiser les héliocentrismes. Un de ses premiers ouvrages s'appelle Le songe de Kepler. Et donc c'est un des premiers cas de grande vulgarisation scientifique parce qu'il va avec un ouvrage où il va nous raconter la vie des Séléniens justement, on en parlait tout à l'heure, en racontant la vie des Séléniens, expliquer qu'en fait la Lune est un lieu de mouvement, un lieu changeant presque autant que la Terre, ce qui va totalement à l'encontre de la conception aristotélicienne où au-delà de maintenant le monde supralunaire, en fait rien ne change, tout est constant. Donc là, en fait, on a pour essayer de pallier un peu au traumatisme des changements dans la conception du monde, on va essayer de se raconter de nouvelles histoires pour justement, comme je l'ai dit, pallier un peu à ce traumatisme. Ensuite, on a un troisième aspect, c'est un peu plus caricatural, mais on peut le souligner quand même, un aspect propagandiste des scientifiques à la modernité. Donc ça, j'emprunte l'expression à Paul Feyerabend, qui va parler de Galilée comme un propagandiste, parce que Galilée est l'un des premiers à écrire, par exemple, en langue vernaculaire pour ses différents traités d'astronomie. Et en fait, on va chercher chez les scientifiques la petite formule mémorable, l'épisode marquant qui permet, encore une fois, de résumer la pensée, le savoir en une seule petit épisode, une petite histoire qui est plus facile de raconter en société que, je sais pas, discuter de mécanique newtonienne à la taverne du coin. Donc ici, on peut souligner tout de suite que ces narrations scientifiques, des récits scientifiques, parce que c'est fiction, pour reprendre l'expression de la présentation d'avant, ont pris une place prépondérante dans la culture générale des sciences dans nos sociétés. Et donc elles répondent à ces divers besoins de vulgarisation et de logistique dont j'ai parlé avant. Mais alors, se pose la question de la sérendipité là-dedans, et on va y venir. Pourquoi est-ce que la sérendipité est omniprésente dans ces divers récits, et surtout quand c'est la sérendipité elle-même qui donne son caractère fictionnel au récit. Par exemple, la pomme de Newton, c'est expliquer comment cette découverte par hasard en regardant la pomme qui vient justifier ensuite toutes les équations du mouvement. Alors il y a cette question de l'apport de la sérendipité, puisque on choisit de presque sacrifier le vrai dans l'anecdote scientifique au nom de la sérendipité, c'est bien qu'elle doit apporter quelque chose. Du moins, c'est ma position ici. Donc, pour une petite histoire du terme de sérendipité, en fait, il a été créé au XVIIIe siècle par Horace Walpole, donc un diplomate, un homme politique et esthète britannique, qui en parle dans une lettre à un ami, où il explique qu'il a réussi, en alliant sa sagacité et son savoir mondain, on va dire, et les quelques hasards d'observation, de remarquer que en fait un mariage allait avoir lieu avant tout le monde. Donc il en fait part à son ami et explique que ce genre de découverte est qualifié de sérendipienne. Donc et là il explique d'où vient sérendip, qui est en fait ce pays fictif hérité d'un camp de persans très ancien, où on suit l'histoire de trois princes qui viennent de ce pays de Sérendip, qui, en fait, par leur don d'observation, vont être d'abord confrontés à confrontés à un marchand qui a perdu son chameau, et en fait, au fur et à mesure de la discussion avec ce marchand, les princes vont lui poser des questions sur les différentes caractéristiques du chameau. Il lui pose la question, ce chameau avait perdu une dent, ce chameau transportait une femme enceinte. Et en fait, toutes ces différentes observations qu'ils vont poser comme question au marchand, qui lui devient de plus en plus suspicieux face à ces trois princes qui lui donnent la description exacte de son chameau, proviennent de différentes observations qu'ils ont fait sur le chemin. Donc, par exemple, pour la dent manquante, en fait, ils observent que l'herbe n'est que mangée d'un côté du chemin. Que pour la femme enceinte, il me semble que c'est le poids est légèrement désaxé dans les traces du chameau. Donc, en fait, il y a un vrai talent d'observation chez ces trois princes de Sérendip. Seulement, ça va les, en l'occurrence là, la fin est un peu tragique pour eux parce que le marchand pense que c'est ces trois princes qui ont volé son chameau, donc les envoie en prison. Les trois princes, une fois dans les géoles du roi local, vont en fait réussir par une espèce de twist à sortir de leur géole parce que ils vont être capables de nouveau de faire preuve d'observation et de déjouer en fait une tentative d'assassinat sur le roi. Donc le roi, en reconnaissance, va alors les marier à leur fille. À ses filles, pardon. Donc là, en fait, on a une sorte de retournement qui est dû à la sérendipité, qui est à la fois capable d'apporter du positif comme du négatif. Mais, en fait, ce récit va être sujet à de nombreuses réinterprétations, de nombreuses traductions notamment, et les différentes interprétations vont mettre l'emphase sur différents rôles que peut jouer la sérendipité. Donc, par exemple, religieux, ça c'est dans les premières origines du conte, en fait, les traditions talmudiques vont se réapproprier le conte et proposer une interprétation qui ont produit la fierté du peuple juif, en fait, parce que, en fait, les trois princes de Sérendip seraient issus d'un peuple juif. Une interprétation psychologique, parce qu'on va s'intéresser aux origines qui poussent à la création de nouveaux savoirs. Stratégique, parce qu'on parvient à se retourner dans différentes situations et à toujours tirer le meilleur parti. En l'occurrence, c'est ce qui est décrit par les trois princes ici. Épistémologique, parce qu'on met l'emphase sur une étude empirique du monde, donc on va faire nos observations pour tirer ensuite des lois plus générales. Politique aussi, parce que cette observation, ce talent d'observation, permet aux trois princes finalement d'acquérir un certain pouvoir, parce qu'ils se marient avec les filles du roi. Donc, et là, on peut revenir aussi à Horace Walpole. On se doute bien que pour un homme politique, être capable d'observation et de déduction comme il le fait, ça peut être utile aussi dans sa vie mondaine. Une autre observation qu'on fait au fur et à mesure de l'interprétation des contes, c'est que les auteurs mettent beaucoup l'accent sur le hasard. Et en fait, là, on peut peut-être relever une origine de notre interprétation naïve de la sérendipité, comme cette découverte par hasard. Par exemple, chez Voltaire, ce qu'il décrit comme étant la méthode de Zadig, dont son compte éponyme du coup, est le synonyme d'une haute capacité à s'adapter aux circonstances. En fait, chez Voltaire, on est dans un motif sérendipien qui est encore plus dépendant du hasard qu'il ne l'était dans le conte original, parce que le dénouement n'est pas connu à l'avance, tandis que on savait que les princes de Sérendip étaient innocents dans le premier conte. Donc là vient cette image de la sérendipité comme découverte par hasard, et on va maintenant remettre un peu en question cette interprétation naïve, parce que sinon ça voudrait dire que toutes ces découvertes de sérendipité dans l'histoire des sciences, ça se résumerait simplement à des scientifiques qui ont été au bon endroit au bon moment pour faire les bonnes observations, et après vraiment relativiser, on va dire, le rôle de la raison dans la science. Ce qui est un peu ironique, parce que la science a une tradition un peu positiviste, rationaliste. Et donc, maintenant, comment réinjecter un peu de raison là-dedans? En fait, on voit chez Walpole qu'il y a déjà une part égale, des parts égales partagées entre la raison, la sagacité chez lui, et l'imagination, le hasard du moment. Donc, en l'occurrence, si lui donne de l'importance au hasard, c'est simplement parce qu'il va se retourner face au scientisme de son temps, où il va montrer que l'imagination, en fait, fait tout autant partie que la raison de notre expérience humaine, et donc doit être aussi à la source des différentes découvertes que l'on va faire, tout autant que la raison. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que le scientifique ou la personne qui fait une observation sérendipienne, en fait, il se fait sémioticien, parce que il va être attentif aux différentes traces qui vont être là, et il va être celui qui est capable de poser un sens sur quelque chose qu'il n'en avait pas à l'origine. Donc, maintenant, la récupération scientifique, parce qu'on était un peu dans le domaine de l'élaboration narrative ou la théorie littéraire, et cette récupération scientifique va être elle-même plus ou moins sérendipienne, parce que c'est les cercles littéraires des universités américaines qui vont discuter de ce terme près de cercles scientifiques, et donc il va comme percoler d'un cercle à l'autre, et il va être remobilisé au XXe siècle, juste à temps, en fait, pour la découverte de la pénicilline qu'on a évoquée plus tôt, l'un des épisodes les plus marquants qui va être récupéré vers la seconde moitié du XXe siècle dans un débat qu'il y a entre sciences dirigées et sciences libres ou recherche libre. Donc ici, il y a par exemple Walter Bradford Cannon, qui est un physiologiste américain, qui va se faire l'un des grands défenseurs de cette recherche libre. Un peu comme Michael Polanyi aussi, qui est un historien des sciences, qui explique qu'en fait, les scientifiques seraient beaucoup mieux si on les laissait eux-mêmes faire leurs recherches dans leur coin, et qu'il n'y avait pas d'intervention de la part des gouvernements, par exemple. Donc, lui aussi va mettre un grand accent sur la nécessité de maintenir les scientifiques dans une certaine liberté. Il va décrire les différentes conditions propices à des intuitions. Donc lui, il parle de hunches en anglais. Donc à ces différentes intuitions, donc notamment ne pas être trop fatigué, permettre à avoir un laboratoire qui est presque interdisciplinaire, mettre en relation des scientifiques de divers corps. D'ailleurs, on y arrive du coup, parce que l'un des thèmes majeurs de la revue, c'est la transversalité, donc on y arrive. Mais lui aussi met l'accent sur la nécessité d'avoir un regard attentif, un regard informé. Et là, il cite Pasteur, dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Donc on a quand même ce retour de la nécessité de raison, de sagacité, pour faire sens des observations qui, elles, sont peut-être dues au hasard. Donc ici, pour résumer, la place de la volonté, du volontaire dans la découverte scientifique est donc relativisée. Comme le dit Poincaré, il ne suffit pas de vouloir découvrir, il faut aussi avoir les conditions propices. Mais on a ici une affirmation de Catelin et Loti qui explique que toute découverte scientifique serait sérendipienne, ce qui souligne une place prépondérante remise à l'involontaire dans la recherche scientifique en général. Maintenant, j'aimerais dépasser un peu le point de Catelin et Loti ici, en proposant qu'au lieu de se limiter à la seule recherche scientifique au sein des communautés scientifiques, on pourrait s'intéresser au rôle de la sérendipité dans les récits de science et donc dans la vulgarisation scientifique ou les médiations scientifiques. Donc ici, une première observation qu'on peut faire, c'est que les récits de découverte, même fictifs, qu'on a évoqués plus tôt, nous invitent en fait à s'interroger sur le contexte de découverte de la des différentes lois scientifiques et en fait se mettre un peu en opposition avec la tendance actuelle dans les articles scientifiques qui vise à faire une sorte de reconstruction rationnelle, utiliser un grand mot d'histoire des sciences, mais à sortir toute part de subjectivité de son observation pour en permettre en fait la reproductibilité. On explique que c'est ça la marge de la science. Or, il y a des auteurs tels Blanchard ici qui expliquent que revenir à une part de subjectivité, faire un peu l'éloge de du moment de la découverte et pas simplement de le reconstruire, serait une façon aussi de permettre une plus grande ouverture des sciences. Et ça permettrait aussi d'éviter le phénomène de myopie disciplinaire ici, où en fait on se limiterait simplement à notre petit corpus de connaissances. Et ça nous empêcherait en fait de faire sens des différents épisodes de sérendipité. Parce que, par exemple, si Alexander Fleming n'était pas au fait de l'interaction entre la pénicilline et ces bactéries, il n'aurait jamais pu découvrir la pénicilline et faire sens de cet épisode-là. Et c'est aussi ce que nous explique ici Cannon pour de nouveau enfoncer le clou sur l'importance des sciences ouvertes. Le chercheur qui en fait a des sujets de recherche variés va tôt ou tard faire une découverte. C'est du moins ce qu'il défend. Et enfin, pour dépasser les diverses limites entre les inter, trans et pluridisciplinarités, Loti va nous proposer l'indisciplinarité, donc un mode de recherche privilégiant des découvertes sérendipiennes d'après lui, parce que justement c'est essayer de faire se rencontrer la littérature et les sciences. Un exemple marquant, c'est justement Michel Serres, dont je parlais plus tôt, qui est un exemple de philosophe indiscipliné, si l'on est. Et donc, je proposerais que quelques points positifs de cette ouverture indisciplinaire, c'est par exemple l'évitement du phénomène de chapelle disciplinaire, donc ou même au sein de certaines disciplines, on a encore aujourd'hui des phénomènes de chapelle, donc... Par exemple, en physique, on a des oppositions assez fortes en physique théorique ou aussi dans les paradigmes de psychanalyse dont on parlait hier. Un autre point positif, c'est aussi la culture de cette idée d'un encyclopédisme qu'on a hérité de la Renaissance, où il y a cette idée de connaître plein de domaines variés nous permettent d'avancer en fait sur tous ces domaines en même temps et pas simplement de s'étaler. En fait, en anglais, ils ont cette expression « a jack of all trades is a master of none ». Donc, quelqu'un qui touche à tout, en fait, n'ira jamais loin dans aucun des domaines. Je pense que la sérendipité est un exemple qui va à l'encontre de cette expression. Et enfin, pour finir, pour revenir sur ce thème de la vulgarisation, les récits scientifiques, les petites anecdotes, elles permettent un peu d'émuler ce phénomène d'encyclopédisme, parce qu'il est facile de savoir que... la pomme de Newton est tombée, elle a inspiré pour la gravitation. Il est facile aussi de savoir pour les différentes anecdotes que j'ai citées plus tôt. Et enfin, je pense que ça permettrait aussi de favoriser le rôle de l'imagination, de la liberté dans la recherche, de s'éloigner un peu de cette image des sciences qui serait aseptisée, fivée et rationaliste principalement. Donc je pense qu'en ce sens, la sérendipité nous donne une des voies possibles pour dépasser et rendre plus ouvertes les narrations qu'on a sur les sciences. Donc ici, je vous mets juste la bibliographie si ça vous intéresse. Et je vous remercie grandement pour votre attention.
Et maintenant, nous passons à la dernière communication de ce panel. Cette communication sera présentée par Ombeline de France.
J'y arrive.
Ouais, je l'ai envoyé sur le mail.
Il est sur le mail?
Ouais. Arrêtez le partage. Et puis, ouvrir.
Non, c'est pas ça, c'est là.
Oui, c'est celui-là. Oula!
Ah non.
Ah oui, c'est bon. J'ai un gros truc violet, je vais. Oui, ouais.
C'est ça. Ouais, ça c'est. On a appris que c'est normal.
Alors, Evelyne de France est doctorante en co-tutelle entre l'université Paris-Cité et l'université de Heidelberg en Allemagne. Sa recherche s'ancre dans une interdisciplinarité mêlant philosophie et plus précisément la phénoménologie et la psychologie. Après un master de psychologie, de philosophie, pardon, contemporaine à l'ENS, dont la soutenance de mémoire portait sur la temporalité existentielle des patientes bipolaires, elle débute sa recherche doctorale autour de l'analyse des troubles de la temporalité et de l'événementialité, comprise dans un cadre psychopathologique. Elle pratique la philosophie de terrain impliquée auprès de la clinique psychopathologique. Pardon. Ce sont des termes que je n'emploie pas en tant que prof de lettres, donc excusez ma langue qui fourche. La communication qu'elle nous présente aujourd'hui est titrée « Involontaire mais non pas impossible, l'événement comme bouleversement hors d'attente ». Et tu as la parole.
Merci beaucoup pour la présentation. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi la revue Trait d'Union de me permettre de présenter une partie de ma recherche doctorale qui fait lien en fait avec plusieurs notions qu'on a abordées aujourd'hui autour de la volontaire d'une part, mais aussi de certains thèmes qui sont intervenus. Je pense notamment à l'idée de l'imprévisible ou de l'inattendu. Et précisément, c'est un petit peu de ça dont il va s'agir quand je vais vous présenter mon intervention autour de l'événement. Alors, comme je sais que la phénoménologie psychiatrique va être un peu obscure pour les personnes non initiées, je vous propose une chose, c'est de me suivre dans une petite expérience de pensée et j'aurai pour ça besoin que vous vous imaginiez avec moi, ou plutôt pas tout de suite avec moi, sur un itinéraire de vacances et que vous vous imaginiez un petit peu comme Kerouac sur la route. Vous êtes d'ailleurs, comme il dirait, à mi-chemin de la traversée de l'Amérique, entre l'est de votre jeunesse et l'ouest de votre avenir. Bon, vous l'aurez compris, en gros, la route c'est la vie, avec son lot de valises cabossées par l'expérience de sol pas toujours très très bitumé, et d'ailleurs heureusement. Parfois il y a des nids de poules, et puis parfois il y a des moments plus lisses et aisés à traverser. Alors vous, consciencieusement, vous aviez pris soin de préparer votre trajet en comptant les kilomètres qui vous séparent de chaque étape. Vous projetez même déjà à l'arrivée, c'est-à-dire à ce moment que vise l'itinéraire que vous aviez sciemment choisi, voire même tracé. Et puis sur cette route, pourtant, surgit un ralentissement majeur bien en amont de la fin de votre étape. Et là, vous remarquez, lorsque vous arrivez à sa hauteur, un accident de la route, carcasse de voiture retournée et crachée par la violence du choc. Il y a déjà une ambulance qui est sur place et qui fait remonter dans sa civière un individu atteint dans sa chair par le tonneau qu'a fait son véhicule, le regard hagard, là, sans être là. Cet individu, ça pourrait être moi, ça pourrait être votre voisin, votre voisine. Et moi aussi, j'avais sans doute prévu et projeté d'aller en vacances, pourtant mon itinéraire bifurque, soudainement, après cet événement. L'ambulance me menant à l'hôpital pour des soins, bien loin des perspectives et des possibilités que je m'imaginais pouvoir saisir pour mes congés. Alors cette bifurcation, j'emprunte le terme à Gilles Deleuze, elle est à entendre également dans sa perspective radicalement existentielle, au sens où un autre récit biographique interviendra, et je le dirai bientôt à partir des travaux contemporains du phénoménologue Claude Romano, selon une perspective radicalement événementiel, au sens où cette bifurcation, elle ouvre un réel bouleversement de mon être au monde à partir de cet événement-là. Vous-même, vous serez dévié par l'accident qui existe pour vous aussi, mais comme un fait
c'est-à-dire un accident a eu lieu sur votre route, et ça ne se manifeste absolument pas de la même manière que pour moi singulièrement, au sens où cet accident, il a lieu, il m'implique singulièrement, il m'atteint radicalement, il a lieu pour moi, et son après-coup retentira fortement dans ma vie, dès lors, au-delà de ce qu'on pourrait appeler en fait de factuelles séquelles psychiques ou physiques. Alors, nous serons sans doute d'accord sur le fait que cet accident, par définition, il est involontaire. Hein, je l'ai ni décidé ni voulu. Il est même tout à fait impersonnel et il se déroule de mon pouvoir. Pourquoi ? Parce que précisément, il n'est pas en mon pouvoir et m'en dépossède. Ça veut dire qu'en gros, rien de mon ressort n'a cherché intentionnellement l'accident, ni les tonneaux, le crash, qui dès lors apparaissent dans mon vécu comme tout à fait inattendu, imprévisible. Je pourrais même aller jusqu'à dire improbable. Imaginons que j'avais permis... que j'avais l'habitude de la route, et c'est même précisément peut-être parce que j'avais l'habitude de la route que ça m'apparaîtra comme d'autant plus violent et bouleversant. Alors le terme d'accident ou d'accidentel, il s'entend très majoritairement en philosophie comme ce qui s'oppose à ce qui apparaît comme substantiel, essentiel, nécessaire, ou ce qui doit être en droit. C'est ce qu'on appelle aussi une propriété seconde. Et rien de mon monde jusqu'alors dans son horizon, on va dire, ne détermine ma route vers l'accident, qui lui semble tout à fait exogène, comme dans un surgissement. Et pourtant, dès son apparition, il déterminera une certaine compréhension du monde pour moi, comme une certaine compréhension du temps, l'avant, l'après, qui va être désormais totalement différente et radicalement autre. Et surtout, en fait, il va devenir le point d'origine de cette nouvelle compréhension du monde, sans lequel mon monde n'est plus intelligible. Donc c'est cette nouvelle compréhension du monde, d'un autre monde qui advient, hors de toute attente préalable que j'aimerais problématiser avec vous, le monde naissant avec l'événement. C'est un monde qui se soustrait à tout horizon prédictif par essence, c'est un monde imprévisible, inattendu. C'est finalement cette expérience événementielle qui effracte le monde connu et reconnu d'un sujet schopenhauerien. On a un petit peu parlé de Schopenhauer hier, mais ici il se retrouve sous une autre forme. En tout cas, un sujet schopenhauerien qui pensait façonner son monde selon sa propre volonté seule ou selon où le monde connu et le sujet connaissant coïncident tout à fait. Or, précisément, ce monde, il s'effondre et un nouveau s'édifie, une transformation radicale s'augure pour celui ou celle à qui il appartient. Donc, l'événement qui surgit excède toute représentation préalable, toute volonté. Précisément, il transcende cette volonté, il va outre aux accents prométhéens. Alors ma question la voici, qu'arrive-t-il alors à l'existant pour qui et à qui il arrive quelque chose, balayant dès lors le volontaire par la surprise? Et c'est à cette question, approchée par la psychopathologie phénoménologique, qu'il s'agit de répondre. Je vais préciser mon intervention autour de certains phénomènes de troubles psychopathologiques qui peuvent émerger de cette rupture et du décalage instauré par l'événement. Alors vous voyez aussi que c'est impersonnel à la troisième personne, quand je dis « il m'est arrivé quelque chose » ou encore « ça m'est tombé dessus », ça devient comme le premier protagoniste pendant un temps qu'on pourrait trouver critique d'une histoire que l'existant écrivait pour lui-même, pourtant jusqu'ici toujours à la première personne, en tant que narrateur ou narratrice interne à sa propre biographie. Et le truc, c'est que l'événement advient et c'est cette première personne-là qui est mise à l'épreuve, au sens où il y va de sa singularité pour y faire face et s'approprier la reconfiguration radicale de son monde désormais renouvelé. Donc ce qui caractérise l'événement fondamentalement repose alors sur ce bouleversement involontaire mais non pas impossible, une fois l'événement advenu, capable de rupture comme d'ouverture à un autre monde possible à saisir dès lors par l'advenant. Alors, je voudrais revenir sur une petite chose, c'est ce terme de « pour » que j'emploie beaucoup. En fait, il faut comprendre que l'accident, c'est sans doute le terme que vous utiliserez pour parler de ce dont vous avez été moins sur la route dans une posture d'observation. Mais moi, ou votre voisin ou votre voisine, en parlerons et nous y relierons très sûrement différemment depuis l'expérience vécue. Ça, c'est très important, l'expérience vécue, que nous en ferons. Et c'est en cela que la phénoménologie, elle devient pertinente à la description d'une telle expérience. Pourquoi ? Parce que je suis spécifiquement, moi, dans ma chair, impliquée dans un événement qui s'adresse tout aussi spécifiquement à moi et ne peut se fondre dans une généralité qui en dicterait la manifestation de manière, on va dire, indistincte. Ce qui met dessus cet accident, comme ce qui accompagnera cet accident, j'y viendrai après, ça m'engage personnellement, si bien qu'il m'est impossible de m'y lier comme à un fait et un fait intramondain selon la terminologie qu'emploiera Claude Romano, c'est-à-dire un fait qui apparaît à tout le monde, c'est-à-dire à n'importe qui, c'est-à-dire à personne en fait. Donc quand je parle d'accident seulement, je ne dis rien en fait du bouleversement radical et profond que l'événement de l'accident aura suscité en moi. Bouleversement car l'accident surgit par surprise, il jaillit, excède tout horizon d'attente que je portais jusque-là sur ma route de vacances, et il attente aussi à la temporalité de l'anticipation et de la prévision. Bouleversement qui ne dit pas son nom lorsqu'il a lieu, qui n'est pas nécessairement une stupéfaction au moment de son apparition, mais qui peut aussi laisser choir dans une forme de stupeur existentielle où plus rien n'arrive, où plus rien ne peut déplacer l'événement critique qui n'a pas su trouver son lieu psychique. Et ça, c'est le cas notamment de la psychose, nous le verrons bientôt, comme peut le soutenir le phénoménologue Henri Maldinet. C'est dans ces moments que l'agentivité de l'existant s'en retrouve suspendue, comme mise en dehors. Cependant, la Maldinet met l'accent là-dessus, ce n'est pas la crise, mais la forclusion de tout état critique qui constitue le pathologique, c'est-à-dire l'impossibilité de la crise comme capacité à décider autrement, qui en forgera la dimension psychopathologique. Alors j'entends par agentivité, l'anglais agency, la puissance active et actante d'un existant à l'initiative de ses actions et s'y reconnaissant comme tel, en particulier dans des contextes contraignants qui nécessitent sa mobilisation intentionnelle pour agir sur ou transformer son environnement. Sauf qu'en fait, l'événement, il est lui aussi vecteur de transformation, il échappe au contexte d'agentivité jusque-là comprise par l'existant, il le dépasse tout à fait et le prend de court. L'événement, en fait, il émerge sans être assujetti du tout au monde que je me représentais, ça veut dire qu'il est exclu de mes possibilités, des possibilités que je projette dans le monde. Et donc, en ce sens, il est impossible. Tandis que je me comprends à l'aune de possibilités que je projette pour moi dans ma trame existentielle, c'est-à-dire avec ma volition, donc le fait de manifester ma volonté, il y a des motivations, il y a des désirs, il y a l'élan vital, tout ça me pousse à actualiser des possibilités, par exemple prendre ma voiture pour aller en vacances, eh bien, soudainement, l'événement percute cette réalité qui était jusque-là purement construite selon des règles dictées par mon agentivité volontaire et prévoyante, ou alors, comme le dira aussi Martin Heidegger, selon mon souci, mon orgue, pour y substituer un imprévu et du non-voulu. Ce moment-là, il devient fondateur, en fait, d'une nouvelle compréhension du monde, dans laquelle cette possibilité-là, jusque-là impossible, elle prend place et elle court-circuite ce que je prévoyais et projetais dans le monde. Mais donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit plus du même monde du tout, c'est un monde nouveau qui émerge avec une temporalité aux abords paradoxaux. Je vais aller un petit peu vite ici parce que c'est un peu technique, mais en gros, depuis Heidegger, on pourrait dire un peu rapidement que ce qui est volontaire repose nécessairement sur un projet formé par le souci qui part des possibilités de l'existant à des fins d'actualisation dans un horizon d'attente au futur. En gros, projeter, ça veut dire jeter ces possibilités en avant de soi et essayer de les actualiser. Seulement, bien que la temporalité événementielle se déploie par prospection, c'est-à-dire qu'elle dépend du futur, elle n'est compréhensible comme telle qu'à rebours et ne passe pas par une possibilité à actualiser, c'est-à-dire à rendre concrète et réelle. En ça, c'est un vrai défi, c'est une vraie épreuve lancée au temps vécu dont le sujet faisait jusque-là l'expérience. Et donc, on comprend bien que le processus conventionnel, on va dire, de futur, qui devient du présent, qui devient du passé, eh bien, c'est un processus qui est brisé par les fractions de l'événement, puisque le présent émerge tout à coup hors du futur prévisible. Donc, l'événement n'est pas, mais il aura été un événement, et donc il s'exprime au futur antérieur. Tout dépend, en fait, du futur ouvert par cet événement, qui ouvre à la compréhension nouvelle du passé, à l'aune de cet événement qui lui succède. Je vous avais mis, simplement, à des fins d'explicitation, et pour fonder un peu ma présentation, une citation de Romano. Il faudrait garder ça, surtout que l'événement met en crise l'horizon général de nos attentes, celui qui rend notre monde habituel et habitable. Il fait vaciller nos assises dans le monde quotidien en atteignant le possible à sa racine. Et ce, puisqu'en fait, ce qui est actuel devient possible et non plus l'inverse. C'est-à-dire, on n'a pas une possibilité qui devient actuelle, c'est l'inverse qui se pose, et c'est ça qui est effrayant. L'événement, en ce sens, il échappe à tout calcul. Il était jusque-là, je vous l'avais dit, impossible, mais parce qu'il était impensable, et pourtant il finit par transformer radicalement la manière avec laquelle je me comprends moi-même, faisant trembler mes plus intimes certitudes. On peut dire qu'en fait, dans la vie, il y a des chaos, parfois, et qui sont particulièrement intenses, et parfois plus que d'autres. Et par exemple, la route, qui autrefois me semblait être la voie pour partir en vacances, peut devenir alors un obstacle absolument infranchissable, devant laquelle je peine à faire face, désormais exposée dans ma chair, au risque aussi que peut représenter cette route. On voit bien alors comment cette métaphore que j'ai utilisée avec l'accident et la route pour représenter la vie, elle place assez concrètement en fait finalement l'enjeu de l'involontaire au centre de l'événement transformateur, et elle démet complètement la compréhension d'un sujet qui serait que pure volition ou qui ne se définit et ne se transforme qu'à la manifestation de ses propres volontés seules. Alors ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'il y a une part de réceptivité qui intervient au premier plan dans l'existence. En gros, il nous arrive des chocs, des rencontres, des crises, des accidents, des traumatismes, des maladies, des revirements existentiels heureux comme malheureux, si profonds qu'ils en bouleversent nos trajectoires biographiques avec radicalité. C'est pour ça que je parlais de bifurcation avec cette idée-là de vive déviation. Ou en tout cas, elles viennent, tous ces événements-là viennent contrecarrer les biographies qui pensaient s'écrire toutes seules quand tout allait de soi. Et c'est ça qu'on appelle le mode pathique de l'existence, ou encore la passibilité. Nous sommes passibles d'une rencontre, d'un choc, d'une maladie, du fait de notre vulnérabilité, et nous en faisons l'expérience ou l'épreuve en en subissant l'émergence. Et c'est cette part de passivité et de réceptivité de l'expérience qui est fondamentale pour saisir l'extension des impacts événementiels dans nos vies. Mais alors la question, c'est ces événements sont-ils seulement intégrables s'ils génèrent de si grands bouleversements qu'ils peuvent nous plonger dans un effroi et une stupeur paralysante, par exemple, dans un cadre psychopathologique. En tout cas, ce que révèle l'événement, c'est cette appartenance foncière au monde, à n'importe qui, comme à la possibilité que ce monde nous atteigne et qu'innervé à ce monde, nous en ressentions parfois ces chaos avec force intensité. Et parfois, ça prend le risque aussi de nous désarçonner tout à fait, et ça c'est le cas notamment cliniquement, avec le cas du traumatisme, ou du psychotraumatisme, ou encore avec la manifestation psychotique. En fait, l'événement peut prendre la forme, entre autres, d'un traumatisme, lorsque l'ipséité, donc notre capacité à résister aux événements, et sa capacité à faire face s'effondre. Comme nous le dit Romano, l'effondrement de l'ipséité a pour corrélat une altération en profondeur de la passibilité dont je vous parlais jusqu'alors, c'est-à-dire son rapport originaire aux événements en tant que tel. Le traumatisme apparaît lorsqu'en fait il est impossible de faire face à l'événement, impossible dans un premier temps de s'approprier, lorsqu'il déborde tout à fait, par le fait qu'il se manifeste en excès. En gros, c'est trop pour moi. Et ce surcroît auquel je me retrouve exposée me rend incapable d'y répondre, m'imposant une situation limite qui me met en échec et qui est plutôt ce qui interdit toute transformation de soi à soi, toute expérience. Ça peut me pousser à la stupeur, à la paralysie, tant physique que psychique, à une immobilité qui me désimplique du rapport au monde bouleversé en m'en extrayant et en m'assujettissant. Et là, je parle bien de sujet quand j'emploie ce terme, et non plus d'existant ou d'advenant, c'est-à-dire d'existant à qui il arrive quelque chose. On peut y noter ici les points communs avec les phénomènes, par exemple, dissociatifs, de dépersonnalisation, des réalisations qui peuvent faire advenir un apragmatisme, une dessaisie du monde, et qui interviennent dans ce cadre-là. Je voudrais revenir aussi très très vite sur l'histoire conceptuelle qui enrobe le terme de psychotraumatisme. Alors vraiment très très vite, au-delà de son étymologie grecque de blessure, en l'occurrence de blessure psychique par effraction, c'est une histoire qui est faite de débats, qui implique tant la psychanalyse que les manuels diagnostiques type DSM, donc aux États-Unis, ou encore les SIM comme on utilise en Europe. Et ça, en particulier depuis l'apparition du terme de PTSD et l'emphase portée sur la notion de stress qui est engendrée par un vécu de catastrophe violente et effractante. Alors, ce sur quoi se concentre, par exemple, le syndrome de stress post-traumatique, c'est le vécu d'après-coup, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu autrement chez Freud, avec la Nachträglichkeit, qui est ce remaniement psychique de l'événement dans sa postérité et par rétrospection. Néanmoins, cet après-coup se manifeste non pas par l'inscription modifiée des événements traumatiques, mais plutôt par la résurgence intempestive de flashbacks involontaires qu'il s'agirait alors de dissocier affectivement, je pense notamment aux méthodes de MDR, pour empêcher un vécu vif de la répétition, très très invalidant, puisqu'en fait il extrait complètement l'existant de la temporalité afférée intersubjective pour s'y substituer et complètement l'envahir. La question c'est qu'est-ce qui reste dans ces flashs de l'événement tel qu'il est d'abord apparu? Pour Romano, en fait c'est assez curieux, mais pour lui, il désigne cette apparente mémoire comme n'en étant absolument pas une, puisqu'elle ne parvient plus à différencier le passé du présent, désormais alors sans distance, dans une proximité morbide et étouffante. L'événement qui a lieu, par exemple, celui de l'accident, avec ses tonneaux, la violence du crash, je peux me rappeler aussi le crissement des pneus, eh bien tout ça ne trouve pas son lieu psychique pour autant, ne s'ordonne pas parmi le flux des expériences, et sort de leur trame de façon perpétuelle et rémanente. En réalité, l'événement traumatique déborde, au sens où il prend tout l'espace psychique pourtant délimité en expériences temporellement distinctes, et l'avenir s'en retrouve même résorbé, butant constamment sur un passé qui ne passe pas. Je passe sur cette citation, mais s'il faut comprendre, et ça c'est vraiment avec Maldinet qu'on l'entend bien, où les descriptions sont davantage développées, c'est que dans la psychose, il n'est plus d'événement, ou plutôt il n'y a plus qu'un seul événement, l'événement même de la psychose. On a donc une substitution événementielle qui s'opère lorsque la psychose intervient dans la trame biographique du sujet. Alors pour Maldinet, il faut comprendre la psychose comme une béance dont l'écoulement originel est insituable. On sait juste que ça a lieu dans le passé, mais il a lieu sans trouver son lieu psychique et n'est déposé nulle part. Autrement dit, la psychose fait irruption dans la vie du sujet malade à partir d'un événement antérieur qui n'a pas réussi à s'introduire et à s'inclure dans la temporalité de ce dernier, d'où son altérité. Et donc là, ce qu'on a comme idée, c'est vraiment l'idée de rupture dans la temporalité vécue. C'est aussi le retour d'un événement bouleversant, déstructurant et visiblement indépassable, parce que le sujet malade ne peut plus projeter ses possibilités en se dépassant vers un horizon qui lui est propre. Donc, frapper non pas seulement d'incapacité, mais aussi d'un pouvoir, on peut espérer... En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce cas-là, dans ce cadre, pour réouvrir la vie et la recouvrer. Et je finirais justement là-dessus, c'est que l'événement impose une narration qui déloge l'initial narrateur de sa première personne. On l'a vu avec le défaut d'appropriation, qui s'instaure notamment dans le cas du psychotraumatisme. Et c'est cette impersonnalité qui peut être terrassante, mais en fait, elle n'est pas définitive. Et donc, tout l'enjeu, ça va être, notamment dans le soin, d'utiliser le détour de narration alternative pour parler depuis une autre voix. Et donc, en cela, il y a un outil qui est assez répandu, en fait, dans les soins, c'est le recours à l'écriture, ou encore les ateliers journaux, qui permettent, dans le faux silence du crayon, de se proposer comme une étape de rétablissement pour la réappropriation du sujet délogé. Donc l'écriture se fait dans une sorte d'hospitalité et elle ouvre à la possibilité de cette reprise de l'agentivité. Je voudrais pour ça juste vous signaler un très bel ouvrage de Claire Marin qui s'appelle « Hors de moi » et qui raconte dans son expérience d'une maladie, qu'elle ne nomme pas par ailleurs, comment le changement de l'écriture, mais vraiment physique, au niveau de la graphie, s'apparente à un des symptômes qui va lui indiquer qu'en fait, il est temps d'écrire autrement. Et je trouve que c'est une idée assez belle pour comprendre que nos identités narratives, elles se présentent aussi sous la forme de palimpsestes, qui doivent parfois accueillir des trous, des ruptures, des griffonnages, et que par conséquent, il y a toute une remodélisation du sens vers le signe graphique, en l'occurrence, qui peut se présenter comme une aventure alternative à la détermination événementielle surgissante et désinsonante. Et donc, ce que je voudrais proposer en point final, c'est que on pourrait concevoir l'involontaire comme une figure tant vectrice de transformation que d'altérité, mais qui est constitutive, en fait, de nos existences, et ça, au même titre que les décisions importantes de notre vie qui nous placent comme agents volontaires. Voilà, donc après à nous d'apprendre à danser sur ces nouveaux rythmes imposés par l'existence et soigner cette temporalité réorganisatrice qui est parfois tout à fait déstructurante. lorsque c'est au réel qu'on se cogne abruptement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette communication extrêmement intéressante. Et maintenant, je pense qu'on va vraiment pouvoir échanger sur les quatre communications. Donc, Guillaume et puis Flora, si vous voulez venir. Tout le monde, vous admirez. La salle a des questions pour les intervenants.
Moi, j'avais une question pour toi. Quand tu parles de l'autre et amont, je me posais la question de la place de l'insomnie ou du rêve, en fait, dans ces travaux. Alors, je ne sais pas précisément sur les chants du mal d'aurore, mais je me demandais... dans ces moments de lâcher prise où il s'agit justement de laisser place à la volontaire, mais j'avais l'impression qu'en tout cas dans les chants du mal d'aurore, il y avait comme une tentative de rester éveillé, de rester en maîtrise aussi du récit, et donc quelle place à l'insomnie et à peut-être la déviation apportée par le rêve.
Oui, dans la strophe du sommeil que j'ai évoqué, lui dit donc il refuse de dormir parce que c'est un moment où il se dessaisirait de son corps et de sa capacité à penser. Donc il décrit physiquement comment il se met des allumettes pour rester éveillé et tout ça. Mais il dit malgré tout, je fais quand même des rêves, mais le moment où je fais ces rêves-là, ils sont parfaitement volontaires, ils sont mus par ma volonté. Je garde le pouvoir de bouger, de penser, et dans ces rêves, je reste quand même celui qui contrôle les ficelles du rêve. Donc c'est quand même bon, c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a toujours une sorte d'hésitation étrange entre le volontaire et l'involontaire, mais il y a quand même cette peur-là du lâcher-prise qui fait que lui ne revendique jamais ce qu'on a pu dire après, l'écriture automatique, bien au contraire, parce qu'il y a cette peur-là. Après, des commentaires tardifs, après, ont pu, eux, essayer de rendre une part d'importance de ce qu'il y avait de part d'ombre de la lucidité qui était un peu endormie. Bon, ça, c'est Blanchot qui écrit là-dessus, alors c'est un style un peu aussi poétique qu'il utilise pour parler de ça. Mais pour moi, il n'y a pas, en tout cas dans l'écriture, si on s'attache vraiment à l'écriture des chants de Maldoror, il n'y a pas de présence si importante que ça du rêve comme force productrice de l'écriture ou des images. Il recrée parfois quelque chose comme un cheminement souterrain des images, c'est un peu ce qu'on a vu rapidement quand j'essaie d'étudier ça dans un exemple, mais lui, vraiment, il revendique ça, hein, d'avoir des rêves totalement conscients, totalement volontaires.
Des rêves lucides.
Oui, alors c'était ce qu'on dirait aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que lui dirait à son époque, mais oui.
Moi, j'avais une question pour toi, Joey. Tu as donc parlé de la sérendipité et tu as dit à un moment que le terme donc apparaissait sous la plume de Horace Walpole,
ouais.
C'est le terme. Et je me demandais, est-ce que avant l'apparition de ce terme, on ne parle pas, donc avant le 18e, pour les récits hein, qui entourent justement la construction des sciences et les découvertes scientifiques, quelles qu'elles soient, est-ce qu'on ne parle pas de fables parce que l'érudit Nicolas-Claude Fabry-Péresque, qui a découvert, avant Kepler, je ne sais plus, une...
Oui, si, il est repris chez Coiré, c'est ça?
Voilà,
oui,
okay. Ouais. Enfin, a fait beaucoup de découvertes, ouais. Notamment en archéologie, en astronomie, etc. Et... par exemple, un jour, à l'occasion de la découverte d'une grosse, un gros crâne d'éléphant, s'est intéressé au récit des populations locales, en fait, qui assimilaient ce crâne d'éléphant à un crâne de géant. Voilà. Et lui, il parle de fables. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as rencontré des mots, voilà, comme fables avant le projet de famille? Pour parler de ça, tout ça, en fait.
Je pense que c'est quelque chose qui rentrerait, par exemple, dans le traitement qu'ont fait, par exemple, les anciens sur les premières découvertes scientifiques aussi. Il y a Cette place prépondérante accordée au récit, bah, du coup, fable, je pense que c'est un terme qui pourrait être utile, enfin, qui est utilisé aussi ici. Maintenant, est-ce que, en fait, je me questionne sur, est-ce que, du coup, ça traduit aussi la dimension sérendipienne de la découverte de cette part de hasard et de sagacité? Parce que là, justement, j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est peut-être qu'on pourrait, enfin, je sais pas quel rapport qu'il a avec ces populations, mais peut-être qu'il pourrait justement dire, comme certains ethnologues ont eu ce rapport occidentocentré, dire que c'est des populations qui seraient ignorantes, et en fait, leur ignorance leur fait produire ce genre de fable pour faire sens de leur existence. Donc, est-ce que alors on pourrait tirer aussi la sagacité dans les fables-là? Après là, je suis dans une discussion, donc.
Je sais pas, ça m'est venu en écoutant la communication, parce que je me suis dit, bah tiens, effectivement, là, il y a un récit qui entoure. Sinon, il y a aussi cette opération longitude à laquelle il s'est livré. Il a recalculé la largeur de la Méditerranée, qui comportait des erreurs depuis les cartes de Ptolémée. Parce qu'en fait, par hasard, en se promenant sur le port de Marseille, en entendant les marins, il avait entendu dire qu'il fallait toujours mettre un coup plus à droite ou un coup plus à gauche la barre pour pouvoir arriver à bon port.
Moi, je pense que là, par exemple, c'est clairement un épisode qu'on pourrait maintenant qualifier de sérendipité, parce qu'on a la dimension hasard et en même temps l'attention portée à cette discussion de marin et la volonté de chercher plus loin. Donc, oui, je pense que par exemple, dans ce cas-là, c'est clairement. Je pense.
D'accord, merci. Merci.
Des drôles fausses. On n'est pas dans la reprise stricto sensu de ce qui a été avant l'accident, par exemple. Et c'est pour ça que j'évoquais ce terme de transformation, c'est que il peut y avoir des événements pour lesquels il n'est plus possible de vivre comme avant. Et cette plasticité, alors moi je connais le terme plus, alors plasticité narrative, je trouve le terme super intéressant. Je trouve ça très très intéressant. Je connais que la plasticité neuronale dans les grandes lignes, mais on a l'idée d'une réorganisation du sens à partir des ruines du monde précédent, par exemple, et de manière à créer un monde tout à fait neuf qui s'édifie. C'est une formule de Kafka qui est assez belle, je trouve, de dire qu'avec cet événement, le monde s'effondre et un nouveau s'édifie à partir justement des ruines du précédent. Donc je pense que la refonte demeure quand même toujours dans cette idée-là d'une transformation qui est héritière. Alors là aussi, il y a un gros débat autour de la notion d'émergence, qui concède une part d'autonomie ou une part de dépendance plus ou moins grande au tout à partir duquel à l'ensemble des parties à partir duquel la propriété émergente advient. Et c'est passionnant de savoir justement si c'est émergent, ça veut dire que ça n'appartient pas tout à fait à ce tout-là et que ça le déborde. Et du coup, il y a aussi ce caractère-là de transformation, voire transsubstitiation. Je vais plus arriver, j'ai trop parlé. Mais par rapport à l'état d'avant l'événement, en fait. Voilà. Oui. Bah, merci beaucoup.
Et donc, justement, j'ai écouté quelque chose qui est lié à un point de sa dernière. Et donc, la personne qui a présenté l'idée, c'est que finalement, ils sont inspirés beaucoup de, par exemple, la chimie, une professeure en seconde. Et donc, je ne sais pas si tu travailles sur ça aussi, donc je serais sûre de l'avant-garde, mais en on peut s'inspirer des qui ne sont pas rationnelles, rationnelles.
Là, justement, merci pour la question. Et dans le cas de Newton, par exemple, c'est très frappant parce que surtout sur cette question de l'histoire, l'histoire qu'on fait des sciences et après essayer de revenir un peu dessus et de révéler qu'elle est peut-être pas si rationnelle que ça. Newton, par exemple, était aussi un alchimiste confirmé. Enfin, il pratiquait l'alchimie, il croyait dur comme fer. Kepler utilisait la numérologie pour faire sens de son système, mais ça, c'est des anecdotes. Qui, à contrario des anecdotes plus utiles qu'on a évoquées là pour la vulgarisation, l'histoire des sciences s'est bien gardée de les diffuser, on va dire. Il y a peu de gens aujourd'hui qui savent que Newton était alchimiste, à moins que si on s'intéresse un petit peu. Donc, je pense que, pour répondre à votre question d'abord, je pense qu'il y a, comme je l'ai un peu argumenté dans ma présentation, il y a une importance de cultiver divers intérêts parce que, qui sait si Newton n'a pas eu des révélations sur ses théories de l'optique ou quoi pendant qu'il travaillait sur ses travaux chimiques. Comme l'explique en fait Cannon, c'est souvent quand on fait autre chose que l'illumination nous arrive. C'est aussi ce qui explique Poincaré, je crois, une de ses révélations sur les fonctions plus fluxiennes. C'était quand il était en voyage, tout simplement. Il faisait autre chose que les mathématiques et d'un coup, il a eu sa révélation. Donc je pense qu'il y a cette importance de cultiver l'interdisciplinarité. Pardon, j'ai ma langue à fourcher. Mais d'un autre côté, je trouve que l'exemple que vous mobilisez, en fait, il montre comment notre histoire des sciences, enfin telle qu'on la conçoit, elle est quand même assez sélective sur qu'est-ce qu'on fait de nos anecdotes sur les scientifiques. J'espère avoir répondu à votre question. C'est ça.
Oui.
Il y a cette volonté aussi de se différencier, avec toute la modernité, il y a la volonté de se différencier des scolastiques et des médiévaux. Et donc, puisque les médiévaux touchaient un peu à la chimie et écrivaient leurs essais sous forme de poèmes, nous, on va s'en distancier, on va commencer à faire des vrais essais scientifiques et ce genre de choses. Il y a tout un persona scientifique qui se crée à la modernité, oui. Merci.
J'ai été formé ici à Paris, maintenant je suis en Californie, et là, justement, je vais te donner un cours sur l'histoire des sciences et de la technologie qui visait au futur prof de lycée. Et vu que tu parlais de la sérendipité comme une génératrice, une direction selon tes études, la sérendipité, quel rôle joue-t-elle pour l'enseignement de la science,
okay.
Des sciences?
Je pense que, du coup, pour rebondir un peu sur cette anecdote de la confiture, je pense qu'elle a quand même son utilité parce que, comme on l'a vu, elle a un rôle dans les différentes médiations et dans la vulgarisation. Il est plus facile de se saisir des idées, des idées scientifiques à partir d'une anecdote. Maintenant, il reste important quand même de venir étayer un peu, voire démonter les épisodes, notamment de sérendipité ou les récits fictifs. Parce qu'il y en a certains aussi qui peuvent être, négatifs pour l'histoire des sciences. Par exemple, aujourd'hui, l'expérience de la tour de Pise de Galilée, qui est aussi un événement fictif, en fait, si on se penche dessus en physicien, on remarque que l'expérience aurait été faussée s'il avait fait cette expérience, parce qu'il y a les frottements et tout, il n'est pas en condition d'expérience pour ça. Donc, c'est ça, je pense qu'elle a un rôle peut-être introductif, pour faire saisir des intuitions, mais après, il reste important quand même de venir désamorcer ou de venir dire qu'il faut prendre avec des pincettes un peu les notions. Maintenant, comme tu proposes, tu évoques l'histoire des sciences, je pense que dans l'histoire des sciences, elle a un rôle plus important que dans, après, une éducation formelle, je pense, entre guillemets. Mais là, j'ai l'impression de me contredire un peu par rapport à mon point sur l'indisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a une histoire des sciences et une éducation aux sciences, mais... Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un rôle introductif important, mais après peut-être venir rétroactivement désamorcer quelques points. J'espère avoir répondu à ça.
Très bien compris. La thèse de Jolet était de dire que finalement la pérennité c'est quelque chose qui est injecté dans la narration qui porte sur la découverte scientifique, mais ce n'est pas un aspect qui en soi est vraiment en partie de ces découvertes, au moins de quelques exemples passés. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'ailleurs, l'involontaire est uniquement une dimension qui est ajoutée après coup de l'expérience, ou est-ce qu'il y a une vraie part d'involontaire quelque part dans la découverte scientifique? Et deuxième partie de la question, est-ce que ces découvertes sont concevables comme des événements dans le sens que tu décrivais, ou bien, et alors, est-ce que la sérénité ne pourrait pas être vue comme, justement, une mise à récit qui permet
à ce moment-là,
elle a fait
les études,
elle
va prendre
une maîtrise pour
la seconde
qui vient de changer.
Tu veux commencer?
Peut-être, oui.
Ouais.
Merci pour la question d'abord. Et ensuite, en fait, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de sérendipité dans l'histoire des sciences. Du coup, il y a quelques expériences qui nous montrent, par exemple, la pénicilline ou, comme ça, l'invention du micro-ondes. Bon, ça, c'est plus de l'histoire des techniques, mais c'est aussi un exemple de sérendipité. Je pense qu'il y a une part de sérendipité qui est là, et en entendant la présentation d'Andeline, je parvenais, enfin, je me posais la même question en fait. Est-ce qu'un accident, enfin, est-ce qu'une découverte par sérendipité, c'est pas un accident ou un événement? Mais j'ai l'impression qu'on a effectivement injecté un peu de sérendipité, notamment peut-être dû à ce débat entre sciences libres et sciences dirigées, pour essayer de vraiment grossir le trait de il est nécessaire pour les scientifiques d'être libres et de ne pas être dirigés par notamment des programmes gouvernementaux. Il y a aussi cette, enfin, du coup, comme ça se passe après les années 50, il y a aussi ce traumatisme Hiroshima que la science a été utilisée pour annihiler des villes. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension de on veut s'écarter un peu de la direction qu'on peut donner politiquement à la science. Maintenant, comme dit, je pense qu'il y a quand même cette dimension de sérendipité et les personnes qui prônent une recherche indisciplinaire, elles le défendent aussi. C'est comme la citation le disait, en fait, toute découverte scientifique serait sérendipienne parce qu'il a fallu à un moment qu'une personne soit attentive et informée sur un point. Donc, je pense que c'est ça, il y a une part de sérendipité, selon moi, il y a une part de sérendipité dans les découvertes scientifiques, dans l'histoire des sciences. Maintenant, il y a des exemples qui montrent qu'on en a rajouté là où il n'y en avait pas nécessairement.
Pour poursuivre, alors, il y a une citation qu'on trouve chez Romano dans L'aventure temporelle qui est assez éclairante. Je trouve que la question est très belle par ailleurs de parler de la découverte scientifique comme étant un événement du savoir, en fait, et un événement du discours. J'y avais pas du tout pensé, puisque j'associais davantage la caractéristique événementielle à, en fait, l'expérience subjective, presque même introspective des advenants à qui il arrive quelque chose. Mais en fait, on pourrait tout à fait dire qu'il arrive quelque chose aussi au savoir, de la même manière. Et pour ça, donc, Romano a cette formule. Je voulais pas employer le terme au début parce que ça risquait de vous faire peur, mais il fait ce qu'on appelle il propose une herméneutique événementielle, en fait. C'est le projet de son travail quand il écrit l'événement et le monde et l'événement et le temps. Et il décrit l'événement comme étant une révolution du sens à son origine. C'est-à-dire qu'on va complètement retourner le sens et l'utiliser comme point d'origine de compréhension à partir duquel le monde va être intelligible à l'advenant. Et donc, bah, évidemment, la question de la révolution du savoir, elle, ou copernicienne, ou ce genre de truc, c'est des notions qui existent aussi en épistémologie et qui parlent justement de changements paradigmatiques dans le champ du discours qui peuvent s'associer du coup à des événements de savoir au même titre que un bouleversement qui adviendrait à un advenant, quoi. Donc je trouve que c'est assez fertile comme question, parce que ça montre que les scientifiques sont ancrés dans un monde qui eux-mêmes peut être perturbé par les découvertes qu'ils font. qu'ils en font et que ces nouvelles compréhensions du monde, il y a des petites révolutions du savoir et d'autres qui adviennent par la conjonction de ces petites révolutions, des petites pierres comme étant des plus grandes révolutions. Ça c'est assez intéressant parce que on pourrait se poser la question, est-ce que ces grandes révolutions n'apparaissent pas aussi dans un après-coup, c'est-à-dire les travaux sont produits et ce n'est seulement plus tard, à bas bruit, qu'on découvre toute l'ampleur en fait de cette révolution du sens qui s'est opérée.
Parce qu'on ne fait pas tout simplement la différence entre la découverte scientifique et la recherche scientifique, c'est-à-dire que pour certains acteurs vont mettre en avant des découvertes, et alors que les scientifiques, que ce soit dans le mode d'apprentissage ou dans les discours, vont mettre en avant la recherche. Le scientifique ne va pas dire qu'est-ce que tu as découvert, il va dire qu'est-ce que tu as trouvé dans ta recherche, dans toutes les disciplines. Le côté découverte, donc je me demandais si le côté découverte n'était pas valorisé à la fois dans certaines sciences, où on découvre un crâne de dinosaure, on découvre une planète, voilà. Dans l'histoire des techniques aussi, comme tu dis, le micro-ondes, et on en parle aussi beaucoup dans la cuisine, voilà, on a mélangé des ingrédients et ça a marché. Mais par contre, dans le reste des sciences, on met en avant le fait d'avoir des hypothèses, tester les hypothèses, réfuter les hypothèses, c'est pas du tout de l'ordre de la découverte. Je sais pas si est-ce que ça recoupe découverte, recherche,
Pour être taquin, on pourrait dire qu'il y a comme un affadissement de se dire on fait plus de découvertes, on fait que de la recherche.
Exact.
Mais je pense que justement, si tu produis des hypothèses, si tu prends le temps, du coup je reviens sur toute découverte scientifique et scientifique, si tu prends le temps de produire des hypothèses, faire une vérification et être attentif, bon certes, tu as cherché un peu le résultat, mais peut-être que et je crois que c'est ça l'argument en fait de Catherine quand elle explique que tout est rendu bien, c'est que le résultat n'est jamais sûr. Et c'est ça le principe de la science. On fait des expériences, maintenant on produit des hypothèses, on les vérifie ensuite, c'est vrai. Mais je pense que justement le but du coup des philosophes qui prônent l'indisciplinarité, c'est d'essayer de réinjecter un peu cette subjectivité et de s'éloigner, on va dire, d'un paradigme recherche pour retomber dans des paradigmes découvertes. Maintenant, il reste que la science recherche, elle est très efficace comme elle fonctionne là. On a des milliers d'articles qui paraissent chaque année et toujours plus aussi. Mais voilà, j'espère que ça... Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Enfin, après, c'est mon interprétation personnelle, donc... Mais j'avais un rebondissement à faire sur ta proposition de réponse tout à l'heure, concernant justement la beauté de dire que les découvertes scientifiques sont des événements de savoir. Que faire du coup de la re-rationalisation dont je parlais, où on vient effacer en fait le moment de découverte pour essayer d'en faire un... Du coup, au moment où on rédige l'article, on va supprimer toute part de subjectivité, on va le rendre reproductible. Et du coup, retomber un peu dans cet affadissement dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il y a comme un refoulement de l'événement?
C'est une question difficile. Je pense que c'est par exemple, si je reprenais Romano, là, il aurait tendance plutôt à parler dans ce cas-là de faits intramondains, c'est-à-dire on va, sachant que le fait, c'est quelque chose qui est explicable causalement, notamment. À l'inverse de l'événement qui déroge à un principe de causalité au sens fort d'une causalité linéaire ou de cause finale, etc., puisque c'est un surgissement qui émerge.
Mm-hmm.
Et donc la causalité, on s'en retrouve un petit peu dite tordue. Mais après, je sais pas si l'effacement contextuel qui pourtant permet de comprendre, en fait, pas d'expliquer, mais de comprendre dans quelles conditions a surgi l'événement, et permet de le réduire, de réduire l'événement au simple fait. Je saurais pas bien dire exactement.
J'ai l'impression que du coup, le fait que tu parles de fait et qu'il est explicable causalement, ça rentre vraiment là-dedans, parce que l'exemple qui est pris, en fait, c'est les mathématiciens qui produisent des articles et qui ont cet éclair de génie et qui après vont essayer de revenir dans une démonstration, de revenir aux causes à effet. Et j'ai l'impression que du coup, ça traduit vraiment ça. Il y a d'abord une découverte, et puis après, on va essayer de mettre les côtés et de passer dans une explication causale. Je sais pas si tu...
Mais du coup, par une logique inductive, alors.
C'est ça, oui. Okay. Je pense. Mm-hmm. On cherche à faire sens de ce qu'on a découvert.
Après, chercher à faire sens de ce qu'on a découvert, c'est toute la logique de l'herméneutique événementielle, au sens où il s'agit de faire sens à rebours. On a un événement, en fait, on n'est jamais... dans une expérience contemporaine par rapport à l'événement, il surgit, ça nous dépasse, et c'est seulement plus tard, dans une sorte de latence qui lui est nécessaire, qu'on arrive par la suite à lui découvrir du sens et à le faire sens, en fait. Mmh. Et donc c'est pour ça que je parlais de cette temporalité très paradoxale, d'une part parce que l'événement déroge au stade premier de possibilité qui devient ensuite actualisable, puisqu'il est actuel, avant d'être possible et devient seulement possible dans un second temps, mais aussi parce que justement on est dans cette posture-là du futur antérieur où il aura été événement, où on est déjà au futur depuis cette posture de futur et puis qu'on le comprend dans le passé. Okay. En fait.
Donc il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas de passage au fait depuis l'événement. Enfin, par exemple, tu parlais de la rédaction.
Oui.
C'est pas un passage au fait de l'événement, c'est tenter de faire sens de l'événement.
Oui, oui, c'est tenter de faire. Bah oui, c'est. Après, tout dépend de la manière avec laquelle c'est rédigé, j'ai envie de dire.
Je me demande, est-ce que ce n'est pas finalement qui nous remet la méthode. Je commence.
Oui.
Chez Vandenel, ça fonctionne très bien, l'idée de maïotique, parce que, en plus, on est dans un dispositif, en fait, pédagogique. Puisqu'on a un maître à penser qui forme, en fait, un style. Donc, le cadre lui-même, le cadre diégétique, en fait, ça invite à avoir cette pensée-là. Après, ce qui est intéressant chez Vandenel, c'est que les vérités, auxquelles on aboutit, avec les personnages, hein, finalement, importent moins que le trajet qu'on a fait. Que le processus, en fait. Et c'est ce que veut montrer Fontenelle, en fait. C'est que, il y a une, finalement, une vérité qui une vérité scientifique, hein, qui va énoncer. Déjà, elles vont être rendues fausses, en fait, un an plus tard. Un an après la publication des entretiens, Newton énonce sa loi. Donc, hop, déjà, toute la vérité scientifique des entretiens, elle est mise à mal. Mais en plus, même de la part de Fontenelle, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce qui l'intéresse, c'est de voir un peu les chemins un peu sinueux que la pensée peut emprunter pour aboutir à des vérités qui sont des vérités davantage de l'ordre du possible que du vrai, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est plutôt des possibilités que des vérités. Et il me semble que c'est surtout ça, et c'est pour ça que je pense qu'il a choisi d'engager ce voyage uniquement par la pensée et non pas de mettre vraiment à l'épreuve ces personnages dans ce trajet vers les planètes, hein. C'est parce que
Je pense que ce qui l'intéresse, c'est vraiment ça, c'est ce cheminement. Qu'est-ce qui se passe quand on pense, en fait, jusqu'où on peut aller, par où passe la pensée, est-ce que l'erreur, justement, peut déboucher sur une vérité, est-ce que la vérité n'est pas toujours, finalement, même la vérité scientifique n'est pas toujours atteinte d'une forme au moins de, on va dire, d'imagination. Alors, on va dire que c'est faux, parce que pour Fontenelle, il y a une part de vérité contenue dans l'imagination, mais disons que tout ça est très, très souple, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il essaie de montrer.
Et chez l'autre amant, alors je pense que l'idée de maïeutique est pas tout à fait opérante, d'abord parce que lui, c'est un peu ce que je dis, il est, quand il pense à la relation avec le lecteur, il la pense en termes très brutaux et médicaux. Alors il y a une image que j'ai pas développée, j'en ai pas eu le temps, mais c'est par exemple celle de la greffe. Il dit au lecteur, je veux greffer dans ton esprit certaines images, certaines idées. On arrive bien à greffer des queues de rats sur d'autres rats. Alors je veux que tu prends cette image-là à plusieurs reprises. Il dit, je veux transvaser, fais cet effort de transvaser dans ton esprit ce que moi je te dis. Il y a une sorte de retour de la maïeutique peut-être dans le fait qu'il renvoie très souvent le lecteur à l'extérieur de son livre. À une réalité, voilà, en disant, moi je te dis ça, tu vas avoir dehors. Il l'invite à plusieurs reprises à poser le livre. Alors évidemment au début, mais il le refait à d'autres endroits, dire, bon attends là, t'arrives pas sur ce que je te dis, va faire un tour et reviens. Et à la fin du livre, donc à la fin du petit roman que j'évoquais, alors là, c'est une façon tellement délirante, oui, Mervyn, sa victime, il l'a fait tournoyer au long d'une très longue corde, et qu'il l'envoie valdinguer, il s'écrase sur le dôme du Panthéon, et il dit au lecteur, si tu ne me crois pas, va voir. Bon, ça c'est peut-être le petit retour qu'il y a, mais en fait je pense que c'est moins une question de maïeutique que ce que je disais, c'est une question de redynamiser un rapport au lecteur de poésie, qui est un peu assoupi à son époque, surtout en prose, parce qu'il essaye de faire un truc, une poésie en prose. Et donc je pense que c'est moins l'idée de faire accoucher d'une vérité que de réactiver un rapport choquant, instable, où on a l'impression que le texte n'est pas écrit à l'avance et qu'il s'écrit en même temps qu'on le lit, et qu'on ne sait jamais où il va pouvoir nous mener, parce que c'est lui qui décide de le faire. Et c'est peut-être moins une question de maïeutique, parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité à attendre derrière ça, si ce n'est ce rapport renouvelé, physique au travers de la page. Il y a des moments où il demande au lecteur de s'approcher de la page parce qu'il veut le sentir, il veut le voir, il veut le toucher à travers le livre. Enfin, voilà. C'est différent.
J'avais une question pour Laura. On a parlé du passage donc de la pêche et des poissons qui rappelait cet épisode de la Bible. Là, donc, c'était un point d'ouverture et un phénomène de transtextualité finalement. Et il était, enfin, et ce passage transsexuel est voulu par Fontenelle. Il le veut, je n'ai pas très bien. Parce que, du coup, enfin, je termine juste ma réflexion. Cette transtextualité, cet endotexte que nous avons tous à chaque époque, chaque lecteur et qui est intime finalement, est-ce que. Fontenelle, finalement, quand tu disais qu'il y avait une vision non religieuse dans les entretiens, est-ce que lui, peut-être, l'a eu, cette vision non religieuse, en plaçant, sans le savoir inconsciemment ou non, cette référence transsexuelle, enfin voilà. Est-ce que les lecteurs l'ont perçu aussi, tu vois, poser cette question, mais à travers la notion de transsexualité?
Alors, Fontenelle n'est pas croyant. En fait, son texte clairement propose une vision qui ne donne pas de place à une providence divine. Donc ça, c'est tout à fait conscient et c'est, il me semble, tout à fait volontaire. Alors après, est-ce que ça a été perçu? C'est intéressant parce que je dirais oui par ceux qui voulaient le voir. Notamment d'autres auteurs, par exemple La Bruyère s'est insurgé à la publication des entretiens. Il a très bien vu la charge problématique de la religion que portaient les entretiens. Et en fait, une bonne partie du dernier chapitre des caractères, des esprits forts, est une charge contre les entretiens de Fontenelle. Donc c'est, oui, ça a été vu et ça a été lu. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, quand on parle, vous dites à n'importe qui, les entretiens sur la pluralité des mots, on pense une œuvre de vulgarisation scientifique. Très souvent, on présente Fontenelle comme le premier grand vulgarisateur scientifique. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que finalement,
Il me semble que cette lecture, et d'autres critiques évidemment le soulignent, hein, mais cette lecture, c'est un écran. En réalité, non, ce n'est pas de la vulgarisation scientifique. La philosophie cartésienne, elle est finalement présente au tout début de l'œuvre dans une métaphore très célèbre qui fait, qui montre le monde comme un opéra. Et c'est en fait ce qu'on a gardé du texte, c'est cette métaphore-là, qui a très bien servi d'écran. Effectivement, on peut lire là l'expression de la philosophie cartésienne, mais derrière, tout ce qui est disséminé justement chez les personnages, dans des images comme ça qui sont en fait portées par plus ou moins personne. Parce qu'en fait, la marquise, c'est une élève, donc on peut toujours tout à fait se cacher derrière le « mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle imagine là ?» Donc en fait, c'est très bien pensé de la part de Fontenelle, parce que le discours, il est assez complètement en lien, en osmose, avec le libertinage philosophique de l'époque. Mais il est caché, et la lecture qu'on en a faite, finalement, elle est cartésienne, elle n'est pas épicurienne. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a eu un... Alors pourquoi, il y a plusieurs, on en discutait tout à l'heure, il y a plusieurs phénomènes d'explication, il y a notamment la lecture qu'en a fait Voltaire, qui a été décisive en fait, encore aujourd'hui, hein. Mais c'est une lecture qui quand même cache une certaine mauvaise foi, hein. C'était aussi pour faire sa place face à Fontenelle qui à l'époque était extrêmement célèbre. Donc, il me semble qu'on peut, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une volonté chez Fontenelle, certes de cacher, parce que sinon il n'aurait pas pu être publié, mais en même temps de dire quand même, dénoncer une représentation du monde qui est davantage du côté du libertinage que du côté du cartésianisme.
D'accord. Merci. Et j'ai une question ici pour toi. Une remarque et une question en fait. Tu as parlé donc du surgissement hein, du jeu, donc Nardo au poète dans le préamont, enfin dans Mal d'Aurore, pardon. Et en fait, ces insertions qui finalement sont métapoétiques ou métanarratives, puisqu'il dit là, je voudrais que ma strophe se termine, m'a fait penser au surgissement métanarratif qu'on a dans les romans médiévaux. Avec les conteurs ou vraiment créateurs, hein, compositeurs de l'œuvre, va nous dire ah bah je vais vous décrire le portrait de la jeune fille et vous allez voir que ça va être mémorable. Et en fait c'est très intéressant parce que finalement dans Mal d'Aurore on est complètement à l'opposé du roman médiéval ou de l'épopée médiévale où finalement on a une vraie volonté de contrôle assuré et assumé en fait de la narration. Ça c'était ma première remarque. Et puis je me suis demandé, dans ta première partie, tu parles justement d'une perte d'une force d'inertie et puis d'une perte de contrôle qui en tout cas serait mise en scène si j'ai bien suivi. Est-ce que on ne peut pas parler du coup de, on ne peut pas rapprocher ça de la fureur schéma. On en parlait pour les poètes latins et c'était ça finalement. C'était une perte de, une folie, qui menait à la composition poétique. Est-ce que c'est un peu ça?
Oui, enfin, alors je l'ai dit en passant, mais effectivement, je pense que en mettant en scène comme ça cette dose d'involontaire, effectivement, il retrouve un mythe de l'inspiration qui évidemment très anciennement a fait de la poésie une expérience de l'involontaire. Prioritairement de la part du poète, presque, qui n'était qu'un intermédiaire de la muse. Enfin voilà, Platon dans Iron, il dit, en fait, la muse, c'est la pierre magnétique, et le poète n'est que le premier maillon d'une chaîne qui sert à électriser plein de petits maillons et à faire descendre la muse dans le monde des hommes, mais le poète n'est qu'un serviteur, il emploie le mot de serviteur. Et l'autre fameux, et c'est assez surprenant, effectivement, retrouve en partie ça. Alors, il n'y a plus de muse, il parle des accents de la poésie qui garde. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la comparaison avec les Étourneaux, l'équivalent des actions de la poésie qui gardent un droit intrinsèque sur sa cervelle, c'est l'instinct des Étourneaux qui ont envie de se rapprocher du centre, on ne sait pas tellement pourquoi, et lui, on ne sait pas tellement pourquoi il aurait envie de se ressentir ça. Mais oui, effectivement, je pense qu'il retrouve une idée de fureur, voilà, peut-être. Alors, je ne sais pas s'il y a de délire, je sais pas si on peut jusqu'à parler d'un délire, puisque lui, il interprète tout beaucoup. Il y a un imaginaire très scientifique chez l'autre amant, naturaliste souvent, puisqu'il y a tout un bestiaire qui a été beaucoup étudié par Bachelard, mais en fait aussi par exemple de mathématiques, d'arithmétique, il fait des strophes entières où il déclare son amour à la géométrie. Donc je ne sais pas si on peut parler de d'emportement, de délire divin, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, dans une œuvre qui pourtant paraît très contrôlée, de revendiquer une force supérieure qui parle à travers lui. Et sinon, pour le jeu, alors pour le jeu, ce qui est très compliqué dans les films d'horreur, c'est qu'en fait, il y a ce dédoublement qui est très instable entre une persona d'auteur, on peut dire l'autre amant si on veut, et Mal d'Aurore, qui est un personnage, qui parfois un personnage qui prend en charge la narration, qui parfois semble pas présent, et en fait à la fin on se rend compte que depuis le début, l'un des personnages de la strophe c'est lui. Et ça fait totalement partie de cette logique de l'instabilité que j'ai commencé à aborder dans ma présentation, puisqu'il y a ces personnages qui surgissent très souvent, même de façon invariable, mais on sait jamais tout à fait d'où. Et on sait jamais à quel niveau narratif. Est-ce qu'il est personnage, est-ce qu'il est narrateur, est-ce qu'il est l'auteur? Donc quand on lit jeu dans les champs de Mal-d'Aurore, on est obligé de se poser vraiment la question de savoir lequel des deux parle. Il n'y a que de très rares cas où on comprend très bien que typiquement une persona d'auteur parle de Mal-d'Aurore, son personnage. Je vais citer l'un des rares cas où il dit au lecteur ne lui résiste pas, rends-toi à lui. C'est vraiment l'un des seuls cas où on a vraiment la distinction très bien faite entre un auteur et un personnage narrateur. Donc bon, savoir qui est le jeu qui parle et qui est le jeu qui conduit l'œuvre, c'est très compliqué. Mais pour peut-être revenir à quelque chose de, alors je suis pas sûr de pouvoir faire la comparaison avec les épopées médiévales, mais par rapport à la conception médiévale de la lyrique, ça pour moi c'est là effectivement qu'il y a l'originalité de l'autre amont, c'est que dans cette tension là, il parvient à donner l'impression qu'on entend à nouveau quelqu'un qui nous parle sur le moment.
Oui. Moi je trouve que, alors pas avec la lyrique des troubadours, mais en tout cas avec les romans type Chrétien de Troyes, mm-hmm. Les romans arthuriens, mais aussi les romans qui ne sont pas arthuriens, il y a un point commun dans cette façon de narrer et de, tu as dit à un moment, une histoire qui se dit, qui se raconte et qui se dit, je sais plus, est-ce que tu, je l'avais noté mais j'ai plus lu, ce n'est pas grave, voilà, une histoire qui se dit dans l'instant ou qui se fait au moment de la narration, un peu finalement comme dans les romans du médiéval, où l'histoire se refait, se redit au moment de sa récitation, au moment de la performance orale, puisque selon la façon de raconter et de narrer, ce n'est plus, enfin, l'interprétation que le jongleur va en avoir, ah bah, ça change de la composition initiale par le véritable créateur final. Enfin, je trouve qu'il y a un point commun.
Oui, c'est ça qui est clair dans ma tête, mais peut-être. Non, c'est compliqué. Alors, moi, je connais peut-être moins ça. Ça me fait penser, moi, au Fabliau. Enfin, c'était pour la même tension là. En fait, c'est un récit qui, à la base, a été mis en scène par un auteur et qui est réinterprété par un jongleur qui peut se l'amener ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de ça aussi là, aussi dans cette hiérarchie entre l'autre amant et Mal-d'Aurore.
Oui, et finalement, la perception qu'on va en avoir est complètement hasardeuse, parce qu'elle va dépendre de la performance.
Oui. Moi, j'avais juste une question pour vous, Flora, concernant un peu, on va dire, pardon, la relation entre l'involontaire et la raison dans les écrits de Fontenelle. Hier, on a eu une très bonne présentation sur les œuvres participatives, sur comment faire intervenir d'autres personnes dans la création d'une œuvre. Ça peut faire advenir quelque chose de totalement imprévisible. Et du coup, en prenant ici le cours, on va dire, du philosophe à la marquise comme une œuvre participative, où il y aurait la marquise et le philosophe qui participe, est-ce que, en fait, Fontenelle ne nous livre pas une sorte de, après vous l'avez un peu évoqué aussi, d'apologie de la raison, enfin, une preuve de puissance de la raison qui parvient, en fait, même chez une marquise qui demande le pourquoi non, qui parfois fait des écarts, on va dire, par rapport à une norme qui serait rationnelle, à quand même tenir l'argumentaire. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas pousser ça plus loin, en fait, en se posant la question de, est-ce que cet interlocuteur, est-ce que c'est nécessaire que ça soit co-créé? Parce que si on prend la tradition dialogique, on a par exemple Platon, l'interlocuteur, généralement, il est pas très utile dans le dialogue platonicien, c'est juste pour donner la réplique. Et je pense aussi à l'argument ontologique de la preuve de Dieu. En fait, c'est même face à un insensé, la raison est capable de lui faire cracher la vérité qu'on souhaite lui donner. Donc, est-ce que c'est vraiment co-créatif? Est-ce qu'il y a vraiment une place laissée à l'involontaire? Ou est-ce que c'est la raison aux commandes?
Alors, je pense que oui, c'est co-créatif, dans le sens où, justement, contrairement à Platon, par exemple, effectivement, où le disciple, en gros, ne sert à rien, enfin, voilà, un peu factice, là, c'est pas le cas. la marquise, en tout cas c'est ma lecture, alors c'est pas toutes les lectures, c'est la mienne, mais pour moi la marquise, justement, et c'est intéressant parce que Fontenelle lui donne un rôle de co-création du savoir pour montrer que justement la raison, certes, elle fonctionne d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a la logique déductive peut aller très très loin, mais la marquise, elle est là pour montrer que l'imaginaire peut se glisser dans la raison. Mmh. Et non pas pour la faire dévier, mais pour justement aller encore plus loin. Okay. Donc en fait, c'est une sorte de, ça permet à Fontenelle de montrer que l'imagination peut s'intégrer et d'une certaine façon doit s'intégrer à l'exercice de la raison. Qu'il n'y a pas d'opposition chez Fontenelle du tout. Et que ce qui est visé en réalité, c'est une sorte de... c'est la médocinité complète, c'est-à-dire que c'est le plaisir de l'exercice de pensée en ce qu'il en fait concerne tout, et le corps, et l'esprit, et l'imagination, et la raison, et tout ça pris dans un même mouvement. Voilà. Donc il me semble que la marquise, elle est là pour montrer, alors elle incarne pas complètement l'imagination, parce qu'elle aussi fait preuve de raison, mais elle est là pour montrer que la raison doit intégrer l'imagination, et c'est en ça qu'on peut aller très loin.
Et pourtant, c'est malgré elle qu'elle est à chaque fois surprise des conclusions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de... On vient mesurer un peu l'imagination. Il y a des limites qui sont posées. J'ai plus l'exemple du texte, mais non, pourquoi elle propose quelque chose et finalement, malgré elle, elle admet que ce n'est pas possible ce qu'elle a imaginé.
Alors, ça, justement, c'est aussi une mise en scène choisie par Fontenelle. On est aussi dans un registre galant. On est aussi, voilà, donc il y a une mise en scène, mais il me semble, alors je suis pas sûre de comprendre exactement le... Enfin, est-ce que tu peux reformuler peut-être?
Oui, c'est ça, j'ai l'impression que, certes, Fontenelle laisse de la place à l'imagination dans le personnage de la marquise, et pourtant, à chaque fois, cette imagination, elle a l'air de buter face à peut-être aux limites posées par la raison, malgré elle. Et elle se rend compte, malgré elle, que... C'est du moins l'impression que j'en avais.
Elle bute, parce que justement, le pourquoi non est là pour... En fait, on intègre la logique déductive tout en partant sur des voies un peu étonnantes.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, c'est pas tant une question de limite, une question de relance, en fait, en permanence. On est dans un mouvement perpétuel. Il est là aussi, on voit une des marques de l'épicurisme, c'est que pour Fontenelle, tout est en perpétuel changement. Justement, il n'y a aucun fixisme dans rien, en fait, ni dans la pensée, ni dans la nature. Et finalement, l'exercice de pensée pour Fontenelle doit chercher à mimer ce foisonnement extraordinaire de la nature. Donc, c'est en ça que l'imagination et la raison se complètent parfaitement. Et justement, je ne crois pas qu'il y ait la question de limite, puisque... Mais sans cesse en train de, non pas les faire disparaître, mais de jouer avec, de revenir, de les passer, de les reposer ailleurs, etc. Et c'est très malléable, en fait, très labile, quand même.
Ok, merci
beaucoup. J'ai répondu.
Merci, tout à fait, merci.
Est-ce que les auditeurs à distance ont des questions pour nos communicants? Apparemment non. Donc, il est midi 36, si je vois bien. Donc, je vous propose de continuer ce débat autour de quelque chose à grignoter dans une autre salle dont je ne connais pas le numéro. C'est
ça ? C'est dans la salle A629, c'est-à-dire dans un autre bâtiment au 6e étage. Donc, en fait, je vous propose que vous y alliez, Maxime et Zoé, qui possède des badges, qui donne accès aux ascenseurs, nous accompagne, et on va s'y rendre. Cette salle n'est pas verrouillée. Bon, il est incendie, il n'y a pas vraiment sur le campus, mais quand même, on ne sait pas faire la salle de frappée.
Merci à vous quatre. Merci à Monica pour ces propositions, ces explications.
Je vais faire une dernière annonce pour les intervenants de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez envoyer vos diaporamas, si vous en avez, à l'adresse mail de la revue? Ça, c'est pas prêt pour la vidéo.
Ça va, oui, ça va.
Bravo.
Ah, bah, c'était très bon. Alors, ici, j'arrête mes éducations. Hein?
Je m'étais mis la pression.
Non, mais c'était très bien. Alors, ici, je dois tout arrêter.
Gracias.